comment que je fais, puisque c'est la demande du groupe et par la voix de Jean-Luc, qui m'a dit, oh là là, avec toutes ces histoires de lévothyrox, de vaccins, de tout ça, et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il était. Donc, on ne comprend pas très bien, il faut qu'on nous explique un peu comment ça fonctionne, tout ça, on est perdu. Et j'ai le gros défaut de dire oui, donc j'ai dit oui, et je ne sais pas si j'ai bien fait. Parce qu'en fait, c'est un sujet immense. Alors, on ne va peut-être pas traiter tout ce que j'ai. En fait, on choisira ensemble, hein, si vous voulez bien. Alors d'abord, je vais commencer en disant pourquoi on en parle, hein, résumer un peu la position du problème. Ensuite, je vais parler des organismes dont il s'agit, des autorités sanitaires, c'est quand même le sujet. Je vais faire une petite description assez courte de chacun, en n'allant pas trop dans le fonctionnement, parce qu'il me semble plus intéressant après de prendre quelques grands mécanismes, quelques grands processus, pour voir à l'intérieur de chaque processus comment elles interviennent, ces autorités. Par exemple, l'AMM. Par exemple, qu'est-ce qui se passe après l'AMM quand un médicament est commercialisé. Ensuite, la fixation du prix des médicaments. Hein, donc, c'est les trois grands sujets que j'ai identifiés comme étant plus... Il y en a plein d'autres, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais balayer quelques grands exemples où ça a pas mal pataugé, au niveau des autorités sanitaires, au niveau du grand public et dans l'interaction entre les deux, plus le corps médical, tout ça. Bon, il y en a. Alors, les exemples, il y en a à foison. Je n'ai pas préparé de diapo pour le cytotexte, je pensais pouvoir en parler. Bah, c'est tellement dans le sujet que ça me semble difficile de ne pas vous donner, vous décoller un peu l'histoire cytotexte. Hein. Donc ça, on la fera. J'ajouterai, mais je n'ai pas fait de support. Alors, les patients, ça, c'est un sujet, je ne sais pas si on aura le temps de traiter, mais c'est vrai que la grande question, c'est l'irruption des patients dans la gestion des réglementations et de la médecine. Les patients disent, c'est nous qui connaissons nos maladies, vous en parlez, vous ne les connaissez pas, il serait bien qu'on puisse influencer. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est la notion assez récente, il y a 10 ans, 15 ans, du patient expert. Alors ça c'est un sujet très important, il s'est passé beaucoup plus de choses autour du patient expert que les gens ne le savent, que le grand public ne le sait ou que les médias en parlent, et ça vaudrait le coup, mais après c'est une question de temps. Hein. Et puis on peut parler des lobbies et des conflits d'intérêts, bien évidemment, donc tout ça c'est préparé, après la question ça sera... Le timing. Pourquoi on en parle? Alors, les autorités sanitaires ou les institutions, qu'on dise l'un ou l'autre, dans tous les cas, il y a une notion un peu péjorative. Une institution, c'est un truc qui est figé, qui est un grand truc, qui fonctionne et qui est déconnecté de la réalité dans l'imaginaire des gens. Une autorité, ben, c'est autoritaire. Hein, et l'autorité, c'est pas la mode actuellement. Puisque les gens, le grand public, a tendance à se révolter contre l'autorité de la police, des politiques, de la justice, des éducateurs, de l'enseignement, du corps médical, etc. Donc l'autorité, on est contre. Et les réseaux sociaux, bien sûr, aident à reprendre un pouvoir. Donc, alors ici, dans le sujet qui nous intéresse, on parle d'autorité, est-ce que c'est des autorités scientifiques, médicales, réglementaires, hein, parce que c'est les autorités qui fixent les règles et la loi. Donc c'est important, est-ce que c'est une autorité morale? Et un des organismes importants dont on va parler, c'est la haute autorité de santé. Autorité. Donc le rejet de l'autorité, la crise systématique, le manque de confiance, on ne nous dit pas la vérité, donc la vérité elle est ailleurs, il faut aller la chercher ailleurs. De toute façon on ne croit pas ce qu'on nous dit. D'ailleurs regardez l'exemple, regardez les vaccins, regardez les Botirox, regardez Cytotec, regardez tout ce que vous voulez. On nous manipule, et bien sûr les décideurs, car les autorités sont à la botte. Des lobbies et ont des conflits d'intérêts bien sûr parce qu'ils ont croisé sur le trottoir d'en face quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Alors les grandes questions qui sont posées, c'est alors, on veut la faire, on ne nous laisse pas parler, on ne nous écoute pas. Heureusement il y a les réseaux sociaux qui permettent de s'exprimer et ils le font. Donc les stratégies sont contestées, les stratégies de santé publique sont très contestées. Il y a des contraintes, on nous impose des dépistages, que ce soit de cancer du sein ou autre, des PSA pour la prostate, etc. On nous impose des vaccins, on nous impose des génériques, alors que les génériques, ben, finalement, on nous a toujours dit que c'est pareil, et on voit bien qu'avec les Votirox, finalement, on a comme un générique, on a une nouvelle formule, on a changé quelques excipients, on a fait des études de bioéquivalence, et bien quand même, on dit, ah, il y a un problème, alors quoi? Et pourquoi, pour la nouvelle formule de l'Votirox, qui est en fait comme un générique, pourquoi pas, pourquoi tous les autres génériques ne seraient pas dans le même cas. Donc tout ça, les gens ne comprennent plus rien, et cette autorité d'imposer les génériques, les gens ne la disent pas forcément bien. Il y en a qui sont très contents parce que ça coûte moins cher, mais des fois ils disent que c'est peut-être tout à fait le même produit quand même. Une nouvelle formule, des Votirox. on n'écoute pas les patients, les effets secondaires, on ne nous en parle pas, on les cache et on ne nous parle que de l'efficacité, etc. Donc ça, c'est pas bien, on nous berne, tout est opaque, et les prix, c'est n'importe quoi, il y a des produits qui sont beaucoup, beaucoup trop chers, c'est un scandale, les gens s'en mettent plein les poches. On dérembourse des fois des produits, et c'est ennuyeux parce que ça peut être des produits utiles, donc pour qu'on nous les dérembourse, donc on va être de notre poche, etc. C'est toujours le patient qui craint, en fait. Hein. Les conflits d'intérêts, on voit bien tout le temps, même Valérie Cousin est accusé de conflit d'intérêts, alors on ne peut pas bouger le petit doigt ou être impliqué dans une décision sans être immédiatement taxé de conflit d'intérêts. Donc les gens vont gratter et dire, tiens, il y a 20 ans, il s'est passé tel truc, vous avez fait une étude, un rapport pour tel truc, donc il y a conflit d'intérêts. Et l'accès aux traitements n'est pas bon. Hein, donc tout le monde n'est pas égal. Il y a peut-être une médecine qui est très bonne, et encore on la conteste. Par contre, on a du mal à y accéder. Donc tout ça, c'est les grandes questions. En 2016, déjà du temps de Marisol Touraine, les attaques ont été inimaginables. Ça a été sur le problème des. Alors on a entendu parler des statines, hein, les médicaments de cholestérol qui sont toxiques. Alzheimer, on a dit d'arrêter les traitements d'Alzheimer parce que ce qui compte, c'est l'activité musicale ou d'autres choses. Ça va être l'arthrose. Il y avait un produit dit naturel qui est dans l'alimentation. On dit ça, c'est très efficace dans l'arthrose. Comment ça se fait? C'est un scandale qu'on le dérembourse. Il a été déremboursé. Les antiacides, les IPP. Alors moi, j'ai un refus gastro-œsophagien. Heureusement que je prends mon IPP, ça me transforme la vie. Sinon, c'est dangereux, ça augmente le risque d'Alzheimer. De 64%. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est vrai que le mémoire quand même. Alors que si on exclut le gluten et les produits laitiers, tout va bien et on n'a plus ces problèmes gastriques. Ce sont des constructions en fait, des constructions par le corps médical, par les autorités réglementaires, par l'industrie pharmaceutique. Et après, la dépression, en raison des antidépresseurs, hein, la luminothérapie, plein d'autres choses, il n'y a pas de trucs dits naturels, donc personne ne nous parle de phénomène naturel, enfin, personne d'officiel, parce qu'en fait, on en parle énormément. Et on veut vraiment rendre les gens esclaves des médicaments. Ça, c'est l'opinion un peu générale. D'ailleurs, vous voyez le dessin de Marisol Touraine caricatural, qui était sur un blog. Donc, on y va et on tape avec une violence extraordinaire. Alors, j'ai retrouvé une bande dessinée qui s'appelait SOS Bonheur, qui était publiée, qui était partie dans Spirou dans les années 80. Elle était très visionnaire, cette bande dessinée. Elle décrivait, il y avait 6 histoires, qui racontaient la trajectoire individuelle de personnes qui se rebellaient contre un système social coercitif, contre des contraintes, contre des obligations. Par exemple, il y en a une qui est sur la médecine. Donc, l'héroïne s'appelle Michel Duchamp, et qui portait plus le système de santé, parce que le système de santé qui est décrit est un système de santé futuriste dans lequel tout est contrôlé. Hein, on ne peut pas fumer comme on veut, on contrôle ce qu'on mange, on contrôle la façon dont on vit, et il y a une police médicale qui intervient chez les gens, qui fait des descentes à l'improviste pour voir, vérifier que les gens vivent comme il faut, parce que pour diminuer tous les risques. Là, vous voyez à quel point c'est précurseur. Hein, puis après, il y a des amendes, un pourcentage de salaire, etc. On est obligé d'entrer dans un système et les gens doivent payer un tiers de leurs revenus pour cette assurance. Et pour en faire, alors voilà, ça c'est la BD. Si on regarde là, par exemple, là à droite, vous avez la police médicale qui intervient chez Madame Duchamp. Hein, voilà. Et à gauche, il y a un type qui explique que maintenant, il y a un système de santé qui pourvoit à tout, hein, donc qui est dans la prévention, etc. Et il est totalement incivique de faire de l'individualisme et de vouloir sortir de cette coercition. Donc il faut décourager, il faut dénoncer cette hérésie qui consiste à vouloir individuellement se prendre en charge et sortir de ce système coercitif. Alors c'est futuriste, mais il y a quand même des choses qui ressemblent à la réaction des gens. Ici par exemple, elle a fait des tendances à son régime parce qu'on va vérifier ce qu'elle mange, hein, les courses qu'elle fait, etc. Mais attendez, là ça va pas, il y a trop de sucre, trop de machin, de trucs. Donc vous allez avoir des amendes, on va faire des retenues sur votre salaire. Il y a également des enquêtes, on va vérifier, tiens, il y a un problème de faux contact peut-être dans votre fer à repasser. Donc là, amende. Parce qu'il y a un risque. Un risque pour la collectivité, avec un coût, parce que l'idée c'est de diminuer considérablement le coût de la santé. Voilà, donc tout ça c'est assez amusant de voir que dans les années 80, il y avait cette bande dessinée qui était passée complètement inaperçue, d'ailleurs. Alors, bon, les motivotes, par exemple, ça fait toutes les doléances pour faire représentative. Hein. Dans Marianne, le 12 octobre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualité. Vous allez voir des choses très récentes.
Après le médiator et la défaquine, et encore on peut en citer d'autres, le lévothyrox c'est l'affaire de trop.
Et les affaires de trop, il y en a tout le temps.
Aujourd'hui, les malades montent au front pour dénoncer le pouvoir des laboratoires, l'arrogance du corps médical et les négligences de l'État.
On voit bien les trois corps peu constitués, ayant une certaine autorité, qui sont critiqués.
Alors voilà la position du problème en gros, c'est cette réaction de la collectivité, de l'opinion publique générale par rapport aux autorités, aux institutions. Alors les organismes.
Alors là, accrochez-vous, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Alors j'ai essayé de simplifier.
Bon là, il y en a un certain nombre. Alors il y en a au niveau français, mais je ne vais pas vous parler de ce qui se passe au niveau européen, et encore là, c'est extrêmement simplifié, ni au niveau mondial, etc. On va se contenter de la France.
Alors déjà, pour faire un premier, on va prendre beaucoup le médicament. Il n'y a pas que le médicament dans la santé, mais le médicament est un peu emblématique.
Et les grandes histoires actuelles médiatisées sont sur des médicaments, plein de médicaments. Donc qu'est-ce qui se passe pour voir en gros la mise en place des autorités comme elles interviennent? Quand il y a une nouvelle molécule, on va la découvrir, on va la développer. C'est toute une affaire, ça prend 15 ans. Près de 1 milliard d'euros, c'est énorme. Ça, c'est l'industrie qui le fait, ou des fois les organismes publics, très rarement, ou des fois en collaboration. Et tout ça est en rapport avec des comités d'éthique. C'est-à-dire, chaque fois qu'on passe un stade important, par exemple, pour faire l'essai clinique, une phase 1, avec des volontaires sains, qu'on fait un essai clinique de Rennes, il y a un volontaire qui est décédé, vous vous souvenez, ça. Donc là, il y a eu un comité d'éthique, un CPP, comité de protection des personnes, qui avait étudié le dossier très en détail et qui avait donné son feu. Donc déjà, pendant tout le développement, il y a des autorités, parce que le comité d'éthique a un pouvoir, c'est souverain pour dire oui ou non pour un essai clinique qu'on propose. Donc déjà, il y a beaucoup d'interactions à toutes les étapes du développement du produit. Et puis à un moment donné, le développement est terminé, on est content, le produit est plus efficace que le nocif, on a un bon rapport bénéfice-risque. Donc on a un énorme dossier, c'est un wagon, on va le déposer à l'agence du médicament qui va le mettre dans les couloirs parce qu'il n'y a pas la place dans les placards. Donc si on va faire une demande d'AMM. Et là, on arrive au niveau du ministère de la Santé. Une des trois grandes directions, il y en a d'autres, du ministère de la Santé, c'est la DGS, la Direction Générale de la Santé. Hein. Il y a aussi la DGOS, l'Organisation des Soins, des hôpitaux, etc. Et il y a la DSS, la Direction de la Sécurité Sociale. Donc on va beaucoup parler de la DGS. Parce que dans la DGS, il y a la NSM. Et la NSM, c'est l'agence du médicament. Ancienne ARSAP, c'est l'agence nationale pour la sécurité des médicaments. Donc c'est la NSM qui délivre les autorisations de mise sur le marché. Donc ça fait partie du ministère de la Santé. C'est complètement gouvernemental, public. Alors, on va dire oui ou non, ce produit peut être mis sur le marché ou pas. Vous avez l'autorisation ou pas de le mettre sur le marché. Mais le mettre sur le marché, ça ne dit, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. Ça ne dit pas la valeur ajoutée de ce nouveau produit que vous allez mettre sur le marché par rapport à ce qui existe déjà. Donc là, on va évaluer tout ça, là je vous en parlais tout à l'heure, et c'est la commission de transparence qui va dire ce produit-là, il apporte pas grand-chose, il apporte pas mal, il apporte beaucoup, c'est une révolution thérapeutique qui change complètement l'avenir des patients pour des maladies graves. Donc il y a toute une échelle de valeur ajoutée, ce qu'on appelle l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Ça, c'est fondamental, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la commission de transparence qui décide ça. La commission de transparence, elle ne dépend pas du ministère, elle est indépendante, elle est dans un organisme indépendant, mais qui est payé par les fonds publics, donc par nous, en fait, par nos impôts. Donc, à partir du moment où on est payé par les pouvoirs publics, on n'est pas totalement indépendant. Quoi qu'il en soit, elle est dans son statut indépendante, et la commission de transparence fait partie de la haute autorité de santé. C'est un des rôles clés de l'HAS, mais il y en a énormément, vous allez le voir. Et une fois qu'on a dit, ce produit, il apporte un petit peu, il n'apporte rien, ça peut arriver, parfois, il est aussi bien que ce qui existe de mieux, mais il n'y a rien de mieux. Donc, on peut le mettre sur le marché, il n'y a pas de raison. Par contre, il n'apporte rien. Hein. Donc, on va le mettre, par contre, il ne va peut-être pas être remboursé. On va dire, attendez, vous apportez rien, on ne va pas vous rembourser. Donc, la commission de transparence qui va fixer cet ASMR va avoir un rôle fondamental pour deux choses, la fixation du prix du produit et son remboursement éventuel par la sécurité sociale. Deux choses essentielles. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, la commission de transparence va décider son truc et le dossier va être transféré au COPS, le comité économique des produits de santé. Et là, il y a tout un ensemble de gens qui viennent de partout, beaucoup des payeurs, c'est-à-dire les organismes de sécurité sociale, qui va décider un prix. Elle négocie avec le laboratoire pharmaceutique. On peut pas être d'accord, mais en fin de compte, c'est le CPS qui décide. Ce n'est pas la firme pharmaceutique. Si le produit est remboursé, s'il n'est pas remboursé, les prix sont nuls. Et bien évidemment, les gens veulent qu'ils soient remboursés. S'ils veulent leur ajouter, parce que du coup, les ventes ne sont plus les mêmes. Si les gens doivent payer de leur poche tout, ils ont beaucoup moins acheté le produit. Alors ça, c'est interministériel. C'est le ministère de la Santé, mais c'est également le ministère de l'Économie, de la Sécurité sociale, etc. Donc là, c'est interministériel. Et puis, une fois que le produit est donc mis sur le marché, avec son prix, il est vendu dans les hôpitaux, dans les officines, dans ce qu'on veut, eh bien, on va le suivre. Il y a toute une vie qui va continuer. Ce qu'on appelle la vie post-AMM, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et notamment, là, il y a la pharmacovigilance. On va suivre les effets secondaires. Alors, c'est vrai, quand on voit l'histoire des Botirox, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La pharmacovigilance, ça fait partie du truc. C'est vrai qu'on est dans un système où tout ce qui doit fonctionner, justement, pour veiller ce qui se passe quand un produit est sur le marché, tout ça n'a pas fonctionné, a été complètement court-circuité, d'où une pagaille totale. Et ça, on revient à l'agence du médicament, dans la NSM, qui fait partie de la DGS. Donc, on revient au ministère de la Santé. Vous voyez, en gros, vous voyez les autorités sanitaires, en gros, comment, dans la vie du médicament, elles interviennent à un moment ou à un autre. Alors, si on prend ici la DGS, vous avez ici en violet ce qui fait complètement partie de la DGS. Hein. Donc, vous avez, on va parler de l'agence du médicament, la NSM. On va parler un petit peu de l'ANSP, Agence nationale de santé publique, qui regroupe des organismes, notamment l'INPS, l'Institut de veille sanitaire, ça c'est très important, pour en parler un peu, puis il y en a d'autres, hein. Mais on ne va pas parler de tout. L'agence de la biomédecine, j'ai une diapo, on va aller très vite, et on parlera de la HAS. Le gros dont on va parler, c'est l'agence du médicament, la HAS, et un peu l'ANSP. Autour de ça, il y a tout un groupe de structures qui gravitent.
13 000 emplois.
Alors, la DGS d'abord. La DGS, alors je vous ai mis souvent des logos pour un peu égayer, parce que c'est pas un sujet très drôle. Donc j'ai mis quelques images pour vous stimuler un peu plus que simplement d'écriture. Alors la DGS, bah, elle fait la politique de santé du pays. Hein. Elle a pour but d'améliorer l'état de santé des gens et de la préserver, donc il y a un côté préventif. Il peut y avoir des grandes menaces sanitaires, c'est-à-dire des crises, et là, la DGS est en première ligne. Elle garantit l'accès au système de santé pour la totalité des gens, ce n'est pas des différences sociales ou géographiques, et puis elle a un rôle de coordination de tous les partenaires autour de la santé. Ça, c'est très général. À l'intérieur, il y a énormément de choses. Alors voilà, ben là, vous avez le directeur actuel de la DGS, Benoît Mallet. Il y a 308 collaborateurs à la DGS même, mais dans toutes les agences qui sont dans la DGS, il y a un paquet de monde. Donc tout ça, il y a une énorme structure et il y a des moyens considérables. Ils sont toujours insuffisants, j'imagine, bien sûr. Alors, la DGS s'engage à respecter des valeurs. Alors, on ne va pas les détailler. Équité, principe d'égalité entre les gens. Sécurité, protéger les gens. Coopération, persévérance, parce qu'il faut du temps, les choses doivent s'inscrire dans le temps. Et loyauté, donc c'est la politique de la DGS doit suivre les besoins de la population. Voilà, ça, c'est les grands principes qui sont officiels, hein, c'est dans la définition du rôle de la DGS. Alors, la DGS agit en suivant la SNS, la Stratégie Nationale de Santé. Donc, il y a une stratégie qui est écrite pour des plans en général de 3 ans, et dans lesquels il y a les priorités. Alors, on voit les priorités, c'est qu'on considère que les gens vivent pas assez vieux, alors qu'on trouve qu'ils vivent. Il faudrait vivre plus vieux, et espérance de vie améliorée sans incapacité. Parce que vivre plus vieux dans de mauvaises conditions, c'est pas très bien non plus. Le poids des maladies chroniques, c'est un problème, les incapacités, l'accès à certains services de santé, et puis le risque de recrudescence d'épidémies infectieuses, il y a une menace énorme, d'où la rigidité, enfin disons, d'où le fait que le ministère de la Santé se sarc-boute tellement sur les vaccins, qui sont quand même un des moyens considérables d'éviter les épidémies de pathologies infectieuses. Ça, vous avez la couverture du projet stratégique de santé 2017-2019, de la DGS. Donc il y a un bouquin, la stratégie est écrite. Alors je reviens donc au graphique de tout à l'heure pour vous resituer. Donc on a vu la DGS, maintenant on va parler de l'ANSM, de l'agence du médicament. Alors il y a 3 agences, comme je vous ai dit, principales. Hein. Alors il y a les directions, la DGS, la DGOS, la DSS et d'autres, mais les 3 grandes. Et puis il y a les agences. Donc vous avez 3 grandes agences, vous avez, je vous en ai parlé, hein. Vous avez l'ANSM, l'ANSES, on ne va pas en parler, hein, parce que c'est l'alimentation, l'environnement, le travail, c'est pas trop le sujet. Et l'ISS, éventuellement, on en parlera. Ça, c'est qui fait partie de l'agence de l'autre dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Il y a énormément de monde, il faut arriver à s'y retrouver. Alors, l'agence du médicament, l'ANSM, voilà le logo, elle a succédé à la SAPS. Comme c'est des choses qui sont très contestées, qui marchent plus ou moins bien, il y a beaucoup de réformes, on vire les gens, tout le temps. Le directeur, il y a une vaste des directeurs de l'agence du médicament et les chefs de département. Il y a eu une époque, à l'époque de Marantini, ou même juste avant, où on ne trouvait plus de directeur des services de pharmacovigilance, où plus personne ne voulait le faire, pour se trouver dans le canard enchaîné, se trouver mis en examen, pour travailler comme un fou, avec des moyens malgré tout limités, pour des salaires moyens. Les gens disaient, moi je ne veux pas, donc il n'y a plus personne pour le dire. Ça, c'est un grand problème au niveau de la société. Quoi qu'il en soit, l'agence des médicaments a remplacé la SAPS, parce qu'on change de nom aussi en général quand on fait une réforme. Alors, c'est un établissement public, tout ça, voilà. Il y a quand même 1000 salariés, hein, et autour il y a plein d'experts. Donc il y a 2000 experts qui tournent autour. Donc il y a des moyens, mais vu le boulot qu'il y a à faire, c'est pas énorme. Mais vous vous rendez compte quand même. 1000 salariés de l'agence du médicament. Donc c'est un monde. La gouvernance, il y a trois éléments clés de gouvernance de l'agence du médicament. Il y a un directeur général, Dominique Martin, alors qui à peine nommé, on a pris plein la gueule dans les médias très rapidement, qui a fait succéder à Maradinki. Il y a un déontologue, le déontologue de l'agence du médicament. Ça c'est nouveau. Donc c'est une personne qui est chargée de vérifier que tout va bien au niveau éthique, et notamment de vérifier tous les conflits d'intérêts. Donc il y a une personne qui est au même niveau que le directeur général ou le conseil d'administration. Et ça, ça fait déjà... ça date de la création de l'ANSM en remplacement de la SAS. Et il y a un conseil d'administration avec dedans très ouverte aux représentants de la société civile. Donc vous avez beaucoup de parlementaires, des professionnels de santé et des représentants des patients. Ce qui fait que pour les votes, il y a 18 voix qui sont des représentants de l'État et 18 voix qui sont pour les autres membres. Voilà, voilà, c'est important de savoir qui est dedans, qui comment ça fonctionne et qui surveille. Alors, l'agence, elle a des commissions. Alors, il y en a plein. Hein, j'en ai sélectionné trois qui nous intéressent. Une dont on ne va pas parler parce qu'on n'a pas le temps, hein, c'est le contrôle de la publicité. Donc, l'agence des médicaments surveille la publicité sur tout ce qui est sanitaire, notamment les médicaments. Hein, donc c'est très contrôlé la publicité, on ne peut pas dire des choses. Alors c'est vrai que pour des compléments alimentaires ou des choses comme ça, les gens arrivent à faire des allégations qui ne sont pas basées sur des preuves, pour le médicament ça ne marche pas. C'est extrêmement strict, on ne peut rien affirmer qui ne soit pas complètement validé, étayé, etc. C'est très strict. Et puis, elle s'occupe de la commission d'AMM, bien sûr, et la commission nationale de pharmacovigilance. Vous voyez qu'il y a du lourd hein, dans ces commissions. Alors, il y a eu beaucoup de critiques. Hein. Le pauvre directeur de l'agence du médicament, il a été accroché par des tas de gens, notamment par le député Gérard Bapt, qui a expliqué d'abord que l'agence, la NSM, avait été construite sur les ruines de la SARS, après le scandale du Mediator, et les chiffrements de terre moyens, ça c'est le verbatim de Bapt. Elle fonctionne en vase clos et elle connaît une véritable hémorragie de compétences. Là oui, parce que les gens sont tellement malmenés qu'ils ne veulent plus, ils partent. Et puis on n'arrive pas à recruter des gens compétents. Alors on va recruter, mais des gens qui ne sont pas à la hauteur. Donc on ne va pas améliorer l'image et la qualité. On est dans un cercle vicieux, dans une spirale descendante de qualité, de ce fait-là. Et il a dit, diriger l'agence du médicament, c'est faire partie des derniers parachutés. Donc on est quand même dans des termes forts. Et l'agression qu'il y a, ça c'est un exemple parmi des milliers. On a une agression extraordinaire dans les médias, contre les autorités de santé. Des critiques très dures. Ça, c'est, alors Philippe Evel, c'est bizarre hein, ce garçon-là, c'est pas du tout mon modèle. Il a expliqué que l'ANSM, c'était un couteau sans lame auquel il manque le manche. Donc il manque la lame et le manche. Voilà. Donc on est dans des délires verbaux assez incroyables. Mais en tout cas, c'est publié, c'est comme ça. Hein, il manque de réactivité, on s'intéresse qu'aux professionnels de santé et pas aux patients. Ensuite, des fois on va trop vite, hein, ça dysfonctionne. La nouvelle formule de l'évothyrox, on l'a acceptée beaucoup trop rapidement, il fallait faire plus de temps. Cela dit, on a fait ce qu'on fait pour un générique, hein, on n'a pas fait moins. Donc elle ne fait jamais bien. Voilà. Alors, ça c'est l'agence du médicament. Vous voyez, j'ai brossé très rapidement, sinon c'est tout un monde. J'ai plein d'autres diapos, mais soyons raisonnables. L'ANSES, on ne va pas en parler, parce que ce n'est pas trop le sujet, mais parce que comme elle fait partie des grandes agences, je l'ai quand même rappelé. L'ANSP, ça c'est important, c'est l'Agence Nationale de Santé Publique. Voilà autre chose. Vous avez le logo en haut à droite. Alors en fait, c'est un truc énorme qui regroupe trois choses qui étaient autonomes avant. L'Institut National de Veille Sanitaire, l'INVS, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé et l'EPRUS, qui s'occupe de la veille sanitaire. Alors moi, je suis un volontaire de l'EPRUS. C'est-à-dire que s'il y a... Pour ça que je suis contacté, quand il y a eu les problèmes de virus Ebola en Sierra Leone ou autre, bah, j'ai été convoqué pour aller en mission. Donc c'est des missions de 3 semaines ou au moins minimum, je ne pouvais pas honorer, un tremblement de terre à Haïti, tout ça. C'est l'EPRUS qui va recruter des médecins ou infirmiers ou autres volontaires.
C'est-à-dire quoi
l'EPRUS ?
La mission publique
Je ne sais pas. Ça veut dire quelque chose. C'est bizarre comme nom.
L'urgence sanitaire, oui, d'accord.
L'urgence sanitaire, oui, d'accord. Voilà, donc il y a toute une force, une mobilisation, toute une organisation qui permet de réagir et d'envoyer des gens sur les théâtres de grandes crises dans le monde, en France ou dans le monde. Donc c'est les plus. Voilà, donc, qu'est-ce qu'elle fait, la NSP ? Déjà, elle surveille l'état de santé de la population. Donc, elle est chargée de faire des observatoires, de faire des enquêtes des études observationnelles pour voir comment ça va. Une veille sanitaire. Elle doit se préoccuper de risques qui nous menacent au niveau santé. Donc, il faut, c'est le côté anticipation, et donc tout ce qui va être, je ne sais pas moi, le risque des ondes électromagnétiques, le risque de tout ce que vous voulez. Vous avez des métaux lourds quelque part, vous avez des perturbateurs endocriniens dans l'eau, vous avez un peu de radioactivité dans certaines communes, dans l'eau du robinet, des choses comme ça. Tout ça, c'est leur problème. Hein. Ils doivent regarder ça parce qu'il y a risque. Donc, identifier les risques. Faire le tri et proposer des mesures. Ça, c'est le boulot de l'ANSP, entre autres. Et notamment, par l'INVS, puisque l'ANSP regroupe les prérogatives de ces trois instituts. Alors, développer la prévention de l'éducation pour la santé, hein, et puis, bien sûr, les crises, les alertes, tout ça, elle est sur le pont. Et elle lance des alertes sanitaires. S'il y en a une, ils doivent prêter à tout, parce que les alertes, il y en a plein de possibles, et on ne sait jamais d'où ça va venir. Alors, si on revient là, on a vu donc l'ANSM, on a parlé de l'ANSP, on va dire un mot de l'agence de biomédecine, on va passer 10 secondes dessus, et après on va parler de la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour vous situer où on est. L'ABL, c'est rapide, c'est l'agence de la biomédecine, en fait, c'est un peu comme l'agence du médicament, mais pour des produits spécifiques. Hein. Tout ce qui est greffe d'organique tissu, tout ce qui est... cellules embryonnaires, tout ce qui est génétique, tout ce qui est PMA, GPA, toutes ces choses-là, mais après il y a des travaux qui sont pas voilà, tout ce qui est des éléments qui viennent du corps humain. Sauf le sang, parce que là il y a l'EFS, l'établissement français du sang, qui s'en occupe. Hein, donc c'est à part le sang, c'est encore tout un domaine. Donc voilà, donc ça c'est l'agence de biomédecine, on ne va pas en parler spécifiquement, c'est un peu particulier, et on va se concentrer sur le plus courant. Alors, la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité publique indépendante, donc publique indépendante. Ah, c'est curieux. Mais elle est indépendante. Moi, je connais des gens qui travaillent de très haut niveau, c'est vraiment, ils sont vraiment indépendants. Et depuis 2005, elle existe. Voilà, elle a un statut très particulier. Elle a 410 salariés quand même, et 2800 experts mobilisables. Donc c'est quand même, c'est pas une petite structure. Alors, elle sert à quoi la HAS ? Elle sert à trois choses, à évaluer, à recommander et à certifier. Elle évalue, c'est-à-dire que, vous avez bien vu que je vous ai parlé de la commission de transparence, vous avez un produit qui a son AMM, la question est de savoir ce qu'il apporte, c'est elle qui évalue. Elle évalue tout ce qui est autour de la santé, et notamment le médicament, sur le plan de sa valeur ajoutée. Donc, d'un point de vue médical et économique. C'est ce qu'on appelle le HTA en anglais, le Health Technology Assessment, c'est la commission de transparence en français. Elle fait des recommandations de bonnes pratiques cliniques, notamment au niveau des hôpitaux, au niveau de la prise en charge des maladies chroniques, tout un ensemble de choses à destination des professionnels. Donc, elle fait des recommandations. Toutes les conférences de consensus pour dire, voilà, on a telle pathologie très précise. Donc, les experts au niveau national et en général, c'est au niveau international, sont d'accord pour penser que, vu toutes les études qu'il y a, qui ont été bien regardées à la loupe, c'est ça la bonne attitude, c'est celle qu'on recommande. Ou peut-être une alternative, ou des positions, on ne sait pas. Donc, c'est ce qu'on appelle des conférences de consensus. Hein. Donc ça, les conférences de consensus, c'est des groupes d'experts sous la houlette de la HAS. C'est la HAS qui gère tout ça. Et donc, ils étudient leur collaboration. Ce qui fait que tout médecin est censé connaître les guidelines qui sortent des conférences de consensus. Un médecin peut très bien agir en dehors de ce qui est écrit dans les guidelines sortant des conférences de consensus. Il a le droit, il est libre, il a un libre arbitre pour s'occuper de ses patients et les traiter. Par contre, s'il y a un problème, qu'il est en dehors des guidelines, et qu'il a un problème, et qu'il y a un patient en porte-plainte, s'il n'a pas une justification très forte pour expliquer à quel point c'est un choix qui était, dans ce cas particulier, intéressant, il va en prendre plein de figures, hein, c'est-à-dire qu'il va être condamné. Parce que, donc c'est, il faut suivre les guidelines, si on est médecin praticien, si on les suit, on prend de gros risques. Ou alors, il faut avoir des raisons terribles. Le Cytotec est un très bon exemple. Hein, on n'a pas le droit de l'utiliser pour déclencher un accouchement. Ce n'est pas dans la MM. Donc, ni du, comment il s'appelle, Gynizo, ni le Cytotec. Il y a deux produits, le misoprostol, et qu'on a fait de deux façons. Un pour la gynéco et l'autre pour l'estomac. Donc, bah, on prescrit hors MM. On a une rupture utérine, ça arrive rarement, très rarement. Il y en a une. Et bien, on a prescrit hors MM. Donc, on en prend plein la gueule, normalement. Surtout si on n'a pas prévenu la patiente. Parce qu'il y a l'obligation de prévenir les patients quand on est hors AMM. On peut travailler hors AMM en dehors des guidelines, mais attention, on prend un risque légal énorme. Tant qu'on est dans les guidelines, on peut avoir tous les problèmes, on a suivi les règles de l'art. Donc, on est irréprochable devant le tribunal. Et les médecins et tout le corps médical va de plus en plus devant les tribunaux. C'est l'évolution historique venant des États-Unis un peu. Voilà. Donc, les recommandations, c'est très important parce que vous les suivez. Hein. Donc, c'est pas. Parce que ça a une valeur légale après, on va les sortir. Comment vous avez fait ça alors que normalement, c'est dans les recommandations que vous avez écrit ça. Ah, justifié. Si on n'est pas en béton, on est condamné, hein, tout simplement. Et puis, il certifie les établissements de santé, un hôpital, une clinique, tout ça, c'est la HAS qui va certifier, qui va accréditer. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Vous voyez que c'est énorme le rôle de la Haute Autorité de Santé. Alors, la commission de transparence qui dépend de la Haute Autorité de Santé, ça c'est quelque chose de très important, elle va évaluer l'utilité des nouveaux médicaments une fois que le produit a eu son AMM. Donc, elle ne délivre pas les autorisations sur le marché. Donc, elle sert au ministère à déterminer le degré d'efficacité supplémentaire du produit par rapport à ce qui existe, par rapport à une gravité plus ou moins importante de maladie. Si on a un produit fabuleux pour une pathologie totalement banale, on va pas grimper au rideau. Hein. Si on a un effet modéré, mais pour une pathologie hyper grave, ça va être plus intéressant. Et si on a un produit révolutionnaire pour une pathologie hyper grave, alors là c'est magnifique. Donc ça, c'est important de déterminer ça, parce que derrière, il y aura la discussion du prix, de ce que ça vaut, et la discussion du remboursement. Donc elle donne beaucoup d'avis aussi sur l'utilisation des molécules. Et ça, c'est sur Internet pour les professionnels de santé. Donc tout ça est extrêmement bordé, extrêmement verrouillé. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, il y a deux choses, il y a le SMR et l'ASMR. Bon, le SMR, c'est le service médical rendu. Hein, vous avez déjà un produit qui marche très bien, vous arrivez avec un autre qui marche mieux, mais il y a l'efficacité et les effets secondaires. Il y a toujours le rapport entre le bénéfice et le risque. Si vous êtes beaucoup plus, 10 fois plus efficace, mais vous donnez 10 fois plus d'effets secondaires, et vous donnez des. C'est pas bon. Hein, le rapport bénéfice-risque, vous n'avez rien gagné. Donc c'est vraiment toujours. Quand on parle d'intérêt du médicament, c'est le rapport bénéfice-risque. Mais la valeur ajoutée d'un nouveau médicament, ça peut être parce qu'il est plus pratique à prendre. Vous avez un produit de base qui faut 20 comprimés par jour, par exemple les traitements du sida dans le temps. Maintenant, il n'en faut plus que 2. C'est une vraie valeur ajoutée, même si le produit n'est pas plus efficace et à la même tolérance. Hein. Donc, la valeur ajoutée pour le patient, c'est pas que en efficacité et en tolérance. Et ça peut être en prix. Il peut y avoir un produit qui n'apporte strictement rien au niveau médical, mais qui va coûter 50 fois moins cher. Parce que la fabrication, tout ça, fait qu'on peut réduire les coûts. Donc ça, c'est très précieux, c'est très important aussi. Donc là, il y a un service médical rendu amélioré. Donc en fait, le SMR, c'est pas très intéressant pour discuter là, c'est plutôt l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Donc, est-ce qu'il y a un problème ? S'il n'y a pas de problème, on s'en fout un peu. Mais ça veut pas dire que le produit n'est pas intéressant, mais il n'est pas mieux que les autres, alors à quoi il sert, hein ? Donc, on va donner une note. Hein, on va noter l'ASMR, et ça, quand on a déposé l'AMM et qu'on arrive en transparence, on attend de savoir quel ASMR on va avoir. Parce qu'il va en écouler plein de choses. Ça va de 1 à 5. 1, c'est majeur, c'est la révolution thérapeutique pour une chose grave. Le 5, ça ne porte rien. Et puis il y a toute la gradation entre les deux. Donc là, l'éphémère, avec la note de 1 à 5, en une note, on résume l'intérêt du produit. Alors oublions l'éphémère, voilà. 1 majeur jusqu'à 5, aucun progrès, car le produit n'apporte strictement rien par rapport à l'existant. Alors, une fois qu'on a son ASMR, on est content, on n'est pas content, de toute façon c'est comme ça, on va passer au COPS, le dossier, au Comité économique des produits de santé. Donc ça, c'est interministériel, et ils vont fixer le prix. Alors, je parle du médicament, il y a toute la législation des dispositifs médicaux qui est parallèle à celle des médicaments, donc je ne vous en parle pas parce que c'est très similaire, et on n'en sortirait pas, à part qu'il y a moins de contraintes quand même, pour les dispositifs médicaux que pour les médicaments. Il n'y a pas d'AMM, il y a une certification européenne. Alors, vous imaginez bien qu'il est très intéressant de savoir qui est dans le COPS, qui va fixer le prix, parce qu'en fin de compte, c'est le COPS qui décide. Donc vous pouvez voir, très rapidement, c'est juste pour vous montrer qui est dedans. Hein, vous avez Direction de la Sécurité sociale, un paquet de gens, la DGS, le ministère, la DGCCRF, Direction générale concurrence, consommation, répression des fraudes, très fréquentée. Direction générale des entreprises, il y a deux personnes. Vous avez les caisses d'assurance maladie, les CNAM, salariés et indépendants. Et après, vous avez consultative la DGOS et la Direction générale de la recherche. Donc voilà, donc c'est principalement les payeurs, en fait, qui décident du prix. C'est pas l'industrie pharmaceutique qui va fixer le prix, c'est un organisme interministériel. Qui est complètement souverain, et à l'intérieur de ce comité, il y a principalement des gens qui sont les payeurs. C'est important de le savoir, parce que sinon on se dit comment ça se fait, le prix c'est un scandale. Oui, peut-être, mais en attendant, qui a fixé le prix ? On peut parler aussi du Haut Conseil de la Santé publique, c'était ce qu'on appelait avant le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Alors c'est un peu énervant, on change les noms des organismes, hein, comme si ça allait les améliorer. Donc ça, c'est toute une structure qui est chargée de conseiller le ministre de la Santé. Donc il fait des rapports, des études profondes sur l'état de la santé. Donc ça, c'est encore une autre structure.
C'est une usine à gaz. Hein.
Ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Mais c'est énorme, quoi. C'est du boulot, des rapports, des trucs. Alors, ils ont des... c'est toujours la même chose, hein, c'est l'état de santé des gens, c'est la prévention, c'est lutter contre les inégalités, impliquer les usagers, etc. Alors, on trouve toujours les mêmes grandes valeurs ou les mêmes grands principes. Alors, c'est intéressant de voir leurs priorités, hein, telles qu'elles sont vues aujourd'hui. Il y a des commissions spécialisées qui reflètent les priorités. Maladies infectieuses et maladies émergentes. Et le comité technique des vaccinations, le CTV, fait partie de cette commission du Haut Conseil de la Santé publique. Là, quand on parle, parce qu'on a parlé des vaccins, hein, donc ça, c'est là que ça se règle. Les maladies chroniques, bien sûr, hein, le poids des maladies chroniques est considérable, évidemment, les risques liés à l'environnement et tout ce qui est, le système de santé lui-même. Voilà, donc ça, c'est... Après, l'Institut national de la recherche et de la sécurité, c'est encore autre chose. Ça dépend des caisses d'assurance maladie. Donc, on va passer. C'est tout ce qui est protection des gens au niveau du travail, etc. Alors, nous avons également le Comité consultatif national d'éthique. Donc, vous voyez le logo. C'est Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Donc, c'est un organisme indépendant qui donne des avis sur tous les problèmes éthiques des sociétés. C'est sûr que tout ce qui est PMA, GPA, tout ça, Comité national d'éthique. Mais également tout ce qui est autour de la génétique, tout ce qui est travail sur l'embryon humain, les souches embryonnaires, tout ça, la notion de consentement du patient, quand est-ce à partir de quand il faut lui demander d'assigner. Bon, Cytotec, chère madame, le produit n'est pas indiqué, mais il faut qu'on va essayer de diminuer le délai entre le début du travail et l'accouchement. On n'est pas dans la même, par contre, je vous informe, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Oh, il y a des cas, on a signalé les utérines, je vous le signale, mais ça arrive quasiment jamais. Donc, vous signez, madame, le papier, parce que comme ça, je suis protégé. Donc ça, il y a des consentements. Donc tout ça est bordé au niveau légal. On ne peut pas faire signer des bouts de papier comme ça. Donc tout ça, ça dépend du Comité consultatif national d'éthique. Donc si la dame a sa rupture utérine, elle a signé, elle était d'accord. Hein. Donc elle a dit oui en connaissance de cause. Pour payer 4 euros son déclenchement, ça ne coûte rien. Ça évite une césarienne, un truc, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le comité ? Il y a 39 membres, hein, donc il y a beaucoup de personnalités désignées par le président de la République, donc de la société, des philosophes, des religieux, etc., et des gens surtout donc qui sont connus pour leur intérêt pour les problèmes éthiques, et puis des gens qui s'occupent de la recherche. Alors ça, c'est le comité d'éthique. Alors, ils organisent des fois des états généraux d'éthique, vous avez vu ça, hein, de temps en temps, on en parle, si vous faites attention. Ils peuvent organiser des conférences de citoyens, parce qu'en termes d'éthique, la décision au niveau éthique, elle n'est pas médicale, elle est sociétale, elle est par la société. Il y a des éléments techniques qu'il faut connaître, mais en fin de compte, le médecin, il n'a pas plus de raison de définir la bonne éthique par rapport... Il a sa déontologie à lui, mais au niveau de la société, il n'a pas de raison particulière, outre le fait d'apporter une connaissance, une compétence, une expérience. En dehors de ça, il n'a pas une compétence pour dire ça, c'est éthique ou ça n'est pas. Donc c'est la société en général, d'où ces grands bazars d'états généraux, de conférences de citoyens qui ont lieu. Alors, il y a d'autres comités d'éthique, hein, l'INSERM a aussi ses comités d'éthique pour toutes ses recherches. Donc, des comités d'éthique, il y en a plein. Celui qu'on connaît le plus, c'est peut-être le CPP, l'ancien CCPP et RDH, c'était le comité de protection des personnes pour la recherche en biologie humaine. C'est devenu le CPP, c'est plus facile à dire, le comité de protection des personnes. Quand on veut faire un essai clinique, quelque part, au CHU par exemple, eh bien, il y a un comité d'éthique, un CPP du CHU, qui va se réunir et qui va dire, qui va étudier tout le dossier, qui va dire oui, on peut le faire ou pas. Hein? Donc, on ne peut pas démarrer un essai clinique, une recherche sur l'homme, même faire des prélèvements biologiques pour faire une recherche au labo. Juste, on fait une prise de sang, on va en garder un petit peu, quelques millilitres, pour faire une étude. Accord du patient. Accord du patient. Hein? Donc, il faut l'informer, il faut une note d'information bien précise qu'on remet au patient. Et le patient doit certifier par écrit qu'il a bien vu la note d'information, qu'il l'a lu et qu'il est d'accord. Donc ça, alors pour un essai clinique, n'en parlons pas. Hein, vous avez un cancer métastasé, vous êtes et on vous propose d'entrer dans une étude de phase 3. Il y a un produit qui va vous donner 2 ans de survie de bonne qualité en plus, qui est bien connu. Et puis il y a un nouveau produit dont on pense qu'il peut faire mieux. Parce qu'il y a plein d'éléments qui pensent qu'il peut faire mieux. Parce qu'on a fait beaucoup de choses avant. Vous êtes d'accord ou pas pour tirer au sort en double aveugle. Voilà, donc ça, c'est le CPP qui va décider que l'étude est faisable ou pas. Il va vérifier que toutes les précautions en termes de notes d'information au patient et de consentement éclairé sont bien. Ils vont vérifier tout ça et après ils vont dire oui ou non. Oui ou non, mais par contre, on devra refaire ça, c'est mieux avec ça, et du coup, on revient. Voilà, donc ça, c'est très important et ça date de 88. Hein. C'est la loi Hurier-Cérus-Clat qui a légiféré sur les essais cliniques. Avant, il n'y avait aucune réglementation. Bon, moi j'ai vu arriver, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu ancien maintenant. Voilà, donc les CPPRVH, etc. Donc c'est assez compliqué, ça fonctionne en routine, tout le temps. Ils protègent les gens qui se prêtent à une recherche médicale, et il faut vérifier, bien sûr, ils vérifient que c'est légalement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un CPP, hein, il y a un collège médical et un collège sociétal, moitié-moitié. Donc il y a des gens de la société générale, il y aura des philosophes, il y aura un rabbin, un prêtre, hein, tout ça, il y aura une constitution d'un CPP nommé par le préfet.
Ils sont payés tous ces gens-là qui siègent.
Pardon ?
Ils sont payés tous ces gens-là.
Le CPP, écoute, je ne crois pas, mais il faudra vérifier, il y a peut-être une indemnité. Je ne sais pas, il faudra vérifier. Voilà, donc c'est les DRAS. Enfin, les anciennes DRAS, ça n'existe plus, les DRAS. Maintenant, c'est regroupé dans les ARS, Agence Régionale de Santé. C'est elles qui s'occupent de constituer les CPP, qui en sont garants. Voilà, c'est le préfet qui les note, c'est pour 3 ans, blablabla. Et alors, ça, c'est payé par les gens qui font les études. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, en gros, ou les entreprises qui fabriquent du dispositif médical, c'est elles qui vont être taxées et qui vont financer les CPP. Mais pour répondre à la question, je ne sais pas lequel est le coût d'un CPP. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une petite indemnité quand même.
Oui, je suis sûr qu'il y en a, mais je ne peux pas être précis là-dessus.
Alors, les ARS, ça fait aussi partie des autorités sanitaires, puisqu'on voit bien leur importance. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un problème de santé dans un coin, une épidémie, un truc, il y a du chikungunya parce qu'il y a des moustiques tigres dans les jardins au centre de Montpellier, hop, l'ARS. Et l'ARS est concernée tout le temps. Donc, l'ARS, c'est énorme, puisque ça rejoint Agence régionale de l'hospitalisation, les DRAF, les DAS, l'URCAM, c'est l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, tout ça s'est regroupé, hein, c'est l'ARS, la grosse machine de l'ARS. C'est récent, hein, toutes ces choses-là, enfin 2010, c'est vraiment récent. Voilà, donc ça représente l'État français et ils sont le bras armé du ministère de la Santé pour la politique de santé dans la région. Donc leur importance, ils ont beaucoup de monde, des locaux, tout ça. Je n'ai pas les effectifs, je ne crois pas. Voilà, donc ils ont vérifié que l'offre de soins est moderne et adaptée et qu'on gère bien aussi les dépenses, bien sûr, au niveau de l'hôpital. Donc ils mettent leur grain de sel dans tout ça. Donc les ARS, c'est un très gros truc. Et tout ça entre dans un projet régional de santé. Parce qu'il y a un projet national, mais il est décliné, comme tous les plans nationaux, par des plans régionaux. Donc le PRS, plan régional de santé, qui est élaboré avec l'accord, bien sûr, du plan national, et il faut être dans le cadre, mais il y a des applications locales avec des actions particulières. Donc après, c'est la feuille de route. Hein, et régulièrement, on refait un PRS, comme vous avez des plans nationaux, des plans régionaux qui accompagnent les plans nationaux dans un peu tous les domaines importants. Alors, le Conseil national de l'ordre des médecins, qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans? Ben, c'est une institution et c'est une autorité. Alors, il est très, très contesté. Il a été, en plus, comme il a été créé sous le régime de Vichy en 1940, on le rappelle tout le temps, c'est mal vu. Hein, donc, il défend et il régule la profession médicale. S'il y a quelques brebis galeuses dans le corps médical, et il y en a bien évidemment, il y a une raison qu'il n'y en ait pas, ben, c'est l'ordre qui doit laver son linge dans la famille. Donc, il n'a aucune tutelle, strictement professionnelle. Alors, il est extrêmement critiqué, déjà par les médecins. La façon dont il fonctionne, des prises de position. Il prend des positions, donc ça va jouer. Sur les vaccins, il a pris position, l'histoire des 11 vaccins obligatoires. Donc, et ça a une importance. Ça s'ajoute à l'ensemble des gens qui interviennent. Et des fois, il prend pas de position. Alors, il en prend plein la gueule aussi, parce qu'il n'a pas pris position dans un sujet. Donc, de toute façon, toutes ces institutions, elles sont extrêmement vulnérables. Elles sont la cible des médias en permanence. Il a failli être supprimé puisque la 85e proposition de Mitterrand, quand il était candidat à la présidence de la République, c'était la suppression de l'ordre des médecins. Et il trouvait que c'était une offense pour la démocratie. Voilà. Bon, ben, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Moi, je continue à cotiser, d'ailleurs. Alors, bon, après, il y a tout un ensemble de choses. Il y a un côté juridique semestre, comme tous les conseils de l'ordre, hein, les avocats, tout ça, c'est pareil. Voilà, etc. Bon, là, je ne vais pas détailler trop, sinon on n'en sort pas. Là, par exemple, le 28 septembre, Agnès Buzyn a fait une déclaration pour l'histoire des 11 vaccins obligatoires. Deux jours après, le Conseil national de l'Ordre des médecins publiait un communiqué dans lequel il se félicitait de l'extension prochaine de l'obligation vaccinale. Donc, ça fait partie de toute l'ambiance qu'il y a autour de tous les organismes plus ou moins constitués qui interviennent dans cette histoire énorme qui est la gestion de notre santé. Encore, j'ai été très simplificateur dans tout ce que j'ai dit. J'ai voulu vous faire une visibilité limpide. L'Académie de médecine aussi, elle joue, bien évidemment. Hein, donc, c'était l'Académie royale de chirurgie. Elle a fusionné avec l'Académie royale de médecine. Et tout ça, l'Académie de médecine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, le gouvernement lui pose des questions dans le domaine de la santé publique. Il voudrait avoir l'avis de l'Académie nationale de médecine. Bah, l'Académie se réunit et puis il va donner son avis. Et va faire des études, éventuellement. Elle peut également, sans qu'on lui demande, émettre des avis, des communiqués, et qui auront un certain poids. L'Académie de médecine a dit que c'est quand même respecter les avis de l'Académie. Il n'y a que des gens de bonne compagnie et qui ont plutôt une très bonne compétence dans leur domaine. La diffusion des sciences médicales, d'accord, ok. Elle peut se saisir elle-même pour certains domaines en disant ça, c'est porté en charge, on va s'en occuper. Et puis, elle décerne des bourses aussi, donc elle aide un peu la recherche médicale. Voilà, ça, c'est l'Académie de médecine. Voilà, donc on a vu un petit panorama au pas de course des autorités sanitaires, et encore une fois, en élaguant celles qui ne sont pas fondamentales pour le sujet de ce matin. Et maintenant, si vous voulez bien, on va parler de quelques sujets et on va voir comment elles interviennent. On va décortiquer un peu l'AMM, le post-AMM et le prix, si vous n'êtes pas trop fatigué. De toute façon, moi, je m'adapte à ce que vous voulez. Hein.
Tu peux y aller, c'est bon.
Tu peux y aller.
Alors, la qualité du sida doit t'informer sur le fait que...
Ça ne bouge pas trop, on ne dit pas trop sur sa chaise.
Pas encore.
Si je traite tout, là, ça va commencer à bouger dans les rangs. Non, parce que le sujet est énorme, hein. Merci Jean-Luc.
C'est l'idée de Dominique, on est pas.
Merci Dominique. Hein. C'est assez compliqué. Moi, c'est des sujets que je connais pas mal, mais pour actualiser les trucs, c'est quand même du boulot. Donc c'est immense, hein, comme affaire. Ça me concerne. Alors, vous avez ici un médicament, en l'occurrence une jolie gélule bicolore. Donc, ce médicament-là, bon, pour résumer, il va en haut, il va avoir besoin, pour que les patients puissent en profiter, d'avoir une arrêt, même sinon, il ne sera pas à disposition des patients. Là, il y a deux niveaux. Hein. Vous avez le niveau de national. Alors, il y a un peu d'ARSAT qui traîne, hein, c'est des diapos un peu anciens, vous remplacez par ANSM, ça va très bien, c'est pareil. Et puis, vous avez également des fois, c'est au niveau européen, ça se passe directement, c'est ce qu'on appelle. Alors, il y a plusieurs, il y a des procédures nationales, des procédures décentralisées et la procédure centralisée. Et dans certains domaines, les maladies rares ou en cancéro, on va directement en procédure centralisée à l'Agence européenne du médicament, l'EMA, anciennement EMEA, European Medicine Agency, basée à Londres, qui est en train de chercher où elle va aller à cause du Brexit. Pour la France, c'est Lille qui est candidate. C'est un gros enjeu d'héberger l'Agence du médicament européenne. C'est énorme comme truc, il y a plein de gens, c'est pléthorique hein, comme structure. Donc ça voilà. Donc là, AMM, soit européenne, soit nationale. Il y a plein de cas de figure. Ensuite, transparence, est-ce que c'est mieux que ce qui existe, la SMR, la Haute Autorité de Santé. Ensuite, le prix avec éventuellement remboursement, et là c'est l'UNCAM. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui va décider, et puis après on met le produit sur le marché, on le lance. Et après la vie continue. Hein. On va contrôler la publicité, ça c'est la NSM. On va suivre le comportement du produit, parce que quand on met un produit sur le marché, on a fait, mettons, des études de phase 3, c'est là qu'il y a le plus de patients, et donc on est traité 3000 patients, 15 000 ou 20 000. Ça arrive, 20 000, c'est énorme. Au prix du patient, c'est énorme. Mais il faut considérer que développer un nouveau médicament, ça coûtera 1 milliard d'euros, hein, entre 500 millions et 1 milliard, plutôt près d'un milliard actuellement. Donc il faut que les patients, ça coûte très cher de faire des études de phase 3. Donc si on fait quelques milliers de patients, c'est énorme. Et puis c'est un travail énorme, parce que c'est fait avec une rigueur terrible, obsessionnelle. Mais on n'a fait que quelques milliers de patients. Et si vous avez un effet secondaire, un effet indésirable qui apparaît dans un cas sur 10 000 ou sur 20 000, vous avez toutes les chances de ne pas l'avoir vu. Donc, quand vous allez mettre le produit libéré dans la population générale, dans le vie réelle, et bien là, vous allez voir apparaître des trucs que vous n'avez pas vus, c'est normal. Et là, donc, il va falloir suivre ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, la surveillance post-AMM. Donc voilà. Et puis, dans certains cas, il y a des cas particuliers, on a vu des choses, on peut surveiller particulièrement, on va faire un PGR, on va faire un plan de gestion des risques. On va faire un plan spécifique adapté à ce produit particulier. Et puis on va pouvoir faire des études observationnelles, c'est-à-dire qu'on va prendre 10 000 patients qu'on va suivre de près. On ne va pas faire un essai clinique, mais on va quand même les suivre, on va faire des études de cohorte. Ça c'est pour les maladies chroniques, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est ça. Alors là, AMM, comment ça se passe c'est le rapport bénéfice-risque hein, qui va compter pour autoriser le produit à aller sur le marché. Donc je ne vous dis pas la taille des dossiers qu'il faut déposer. Et s'il manque moins de deux trucs, vous n'avez pas la MN. Donc vous êtes gentil, mais revenez. Alors vous revenez 3 ans plus tard en ayant fait des études complémentaires, et on vous dit ah oui, maintenant la réglementation a changé, maintenant il aurait fallu faire plus. C'est ça la vraie vie. Hein. Alors, vous avez à côté de la MN, vous avez des variantes. Hein, je vous en ai mis un tout petit peu. Vous pouvez avoir une AMM conditionnelle. Hein. Normalement, c'est 5 ans la MN, mais attention, il faut la renouveler. Vous ne l'avez pas pour la vie. Vous avez votre AMM tous les 5 ans pour déposer un dossier. Hein, avec des tables de données montrant que ça s'est bien comporté, que vous avez surveillé le produit. Donc c'est pas vie. Hein. Mais dans la MN conditionnelle, on dit attention, on vous la donne parce qu'il y a un besoin médical, mais on n'a pas tous les éléments qu'on voudrait. Donc on vous la donne que pour un an, hein, et sous certaines conditions. Donc on lâche le produit sur le marché, mais avec un élastique. Ça c'est important. Donc on a tout cet arsenal possible. Si on a un doute et qu'on veut surveiller, on peut toujours faire ça. Il y a des AMM pour circonstances exceptionnelles, le dossier n'est pas complet, mais pour des raisons particulières, il y a un vrai besoin de santé publique à disposer du produit. Donc il y a des réglementations qui permettent. une ANM accélérée, il y a un intérêt majeur en santé publique, hein, parce que, je ne sais pas, bon, il y a un nouveau virus qui arrive, ou une bactérie, et puis il y a un traitement qui visiblement est très efficace, mais on n'a pas tout le dossier, ben on y va quand même. Hein. Par contre, on revoit, on demande aux gens de terminer les développements, de compléter, mais déjà, on le donne, parce que sinon, il va y avoir des tas de morts, et c'est éthiquement inacceptable. Alors, il y a l'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, qu'on utilise beaucoup dans les maladies rares. Hein. Donc, on demande une ATU, c'est-à-dire qu'on a une autorisation temporaire d'utilisation. Parce que si vous avez une maladie pour laquelle il y a 25 cas par an en Europe, avant d'avoir fait des essais cliniques comparatifs en double aveugle, vous n'aurez pas le patient. En plus, des maladies qui sont mal connues, quand ils sont un peu partout en Europe, pour les réunir, c'est très compliqué. Donc, ce sont des maladies, le plus souvent, orphelines, les maladies rares, génétiques, souvent 80% sont génétiques, et orphelines de traitement. Donc c'est vrai que si on a quelque chose qui a l'air de marcher, au lieu de laisser les gens dire on est désolé, il y a un produit, ah oui, il doit être super, mais attendez, dans 10 ans peut-être qu'on aura fait tous les travaux qu'il faut faire, c'est éthiquement inacceptable. Donc on peut autoriser de façon temporaire, sur délivrance spéciale, hein, donc ça peut être par cohorte ou nominal, on va vous donner une ATU, ce qui fait que le patient aura droit au médicament, mais il n'est pas en vente libre. Hein. C'est une demande spéciale, le produit sera disponible que dans certaines pharmacies centrales d'hôpitaux, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités qui permettent à la fois de mettre à disposition des produits très utiles pour des patients qui sont démunis, mais en même temps de protéger les patients et de ne pas faire n'importe quoi. Hein, donc il y a tout un arsenal assez complexe qui est utilisé volontiers. Hein. Bon, et puis après, je vais penser dans tous les détails, parce que ça, c'est juste quelques têtes de chapitre. Hein. Alors, quand il est commercialisé, eh ben, le médicament continue à se surveiller. Il est pas tranquille. Hein. Donc, il reste sous surveillance. Hein. Le rapport bénéfice-risque du produit qui a été basé sur toutes les études qui ont été faites, qui ont permis de délivrer l'AMM, et avec une appréciation auprès de la commission de transparence en termes d'ASMR, ce rapport bénéfice-risque, il peut changer. On peut très bien voir qu'il y a des effets secondaires qu'on ne connaissait pas. Donc le dénominateur, la caractéristique, va augmenter. Hein, le bénéfice va peut-être diminuer. On se dit qu'il n'est pas si efficace ou au contraire meilleur, etc. Donc on va réévaluer le rapport bénéfice-risque du produit pendant toute sa vie de commercialisation. Donc ce n'est pas figé. Hein. Et EI, c'est des effets indésirables. Hein. Effets indésirables connus.
Les effets quoi ?
Effets indésirables. C'est ça, les effets secondaires, les adverses, il y a différents termes. Voilà, alors si on voit qu'il apparaît quelque chose, et bien on va se proposer la question, hein, donc toutes les instances vont être remises en branle, il y en a un paquet, et il faut prendre une décision qui va être peut-être de restreindre les indications, hein, mais des fois elles ont déjà été restreintes, l'histoire de la dépakine chez la femme enceinte, ça fait 30 ans qu'on sait que la dépakine est cétotoxique. Simplement, il suffisait de suivre ce qui est dans le Vidal. Après, on s'étonne d'avoir des malformations depuis 50 ans. On sait qu'il ne faut pas donner une femme enceinte. Et ça a été placé dans les femmes enceintes. Donc là, on n'est pas dans le cas où on a découvert des effets indésirables inconnus. Ils étaient connus. Simplement, les gens outrepassaient. Parce que l'épileptique, qui n'était contrôlée que par la dépakine, eh ben, elle avait tendance à prendre de la dépakine. Et son médecin avait tendance à lui donner. Simplement, c'est totalement contre-indiqué au cours de grossesse et puis fort longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein, entre laisser la patiente avoir ses crises d'épilepsie, etc., qui est du mal, et c'est pas bon pour le bébé, ou donner de la dépakine, hein. Voilà. En tout cas, là, c'est pas des effets nouveaux. Hein. Après, on peut réévaluer le bénéfice-risque du Cytotec. Hein. Maintenant, on veut le retirer du marché, le Cytotec. Vous en parlerez plus précisément. On réévalue le bénéfice-risque. Parce qu'il y a une histoire qui est passée dans les journaux ou deux, et puis il y en a qui a mis rupture utérine, alors que c'est très rare, et que c'est des produits qui étaient utilisés hors AMM. Il est écrit très, très clairement dans le libellé, dans la notice du Cytotec, qu'il y a une contre-indication formelle pendant la grossesse. Là, si on donne le produit. Et l'indication pour accélérer l'accouchement, elle n'est pas autorisée. On ne garde pas les études. Elle est normalement interdite puisqu'elle n'est pas autorisée. Mais le médecin étant libre de sa prescription, bah du coup, il a le droit de le faire. Simplement, quand il y a une rupture utérine et que la patiente porte plainte, là, il en prend plein la gueule. Et là, on est dans un cas quand même, je vous parlais rapidement du Cytotec, parce que et tout ça illustre un peu tous les aspects. Le Cytotec, c'est un produit qui est connu comme tout depuis une AMM qui a au moins 30 ans. C'est un analogue de prostaglandine. C'est un produit qui a un certain nombre d'effets un peu partout dans le corps humain. En particulier, il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac et il a un effet cytoprotecteur des cellules gastriques. Il protège les cellules par différents mécanismes. Il les protège contre des agressions, notamment médicamenteuses. Quand on prend des anti-inflammatoires, on sait qu'on peut avoir une ulcère. Donc, traitement classique de l'ulcère gastrique ou du adénal éprouvé, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien. Contre-indication formelle chez la femme enceinte. À côté de ça, ce produit-là, cette substance, elle a aussi un effet, elle augmente la motricité du muscle utérin. Hein. Donc, du myomètre. Cherchez le mot, ne me revenez pas. Du myomètre. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on donne une femme enceinte, elle va avoir des contractions. Et du coup, si c'est en début de grossesse, elle va faire un avortement, elle va faire une fausse couche. Hein. Et puis, si c'est en cours de grossesse, ben, dans tous les cas, si c'est à la fin au moment d'accoucher, ben, elle va accoucher plus vite, puisque ça va déclencher. Voilà, donc, c'est une caractéristique du produit. Donc, ces indications-là n'étaient pas validées. Alors, récemment, on a validé l'indication déclenchement d'IVG. Ce qui évite de faire plein d'autres choses, c'est simple. Et donc, à 6 semaines, par exemple, en fait, je crois que c'est à partir de 49 semaines d'aménorrhée. Donc, 49 jours d'aménorrhée, IVG, on donne du Cytotec, contraction et avortement et expulsion de l'embryon, qui n'est pas encore en fœtus d'ailleurs, à ce moment-là. Donc voilà, bon, c'est bien, ça marche, tout le monde est content. Et là, il n'y a pas de risque de rupture utérine. Parce que les risques de rupture utérine, c'est en fin de grossesse. Quand l'utérus est dilaté et distendu. Donc, cette indication a été donnée parce qu'il y avait suffisamment d'études solides. Et le produit a été commercialisé par une autre firme pharmaceutique, comme Pfizer pour le Cytotec, et sous un autre nom. Donc, c'est Jimizo, c'est ça, hein, Jimizo. Jimizo, uniquement pour ça. C'est la même dose, hein, 200 microgrammes par comprimé. Donc, c'est le Jimizo et du Cytotec, mais indiqué pour les IVG. Ou, s'il y a une fausse couche, pour aider l'expulsion de l'embryon et des débris qui ne doivent pas être traités, sinon c'est une cause d'infection. C'est autorisé. Alors on parle du Cytotec, parce que les gens, bah, ils s'en foutaient. Ils disent, on va donner du Jimizo, du Cytotec. Est-ce que le Cytotec pourrait être remboursé et pas l'autre? Donc du coup, bah, ça coûte 4 euros la boîte. Hein. Mais enfin, bon, c'est remboursé. Donc du coup, les gens prescrivaient du Cytotec, c'est la même chose, pour des IVG. Donc tout ça va bien, c'est autorisé, il n'y a pas de souci. On prend l'un plutôt que l'autre, c'est pas grave, on ne prend pas de risque. Mais ça marche très bien pour accélérer l'accouchement. Hein. Donc le travail a commencé, ça traîne, ça fait des heures, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait, une césarienne, un truc. Hop, on donne un peu de Cytotec, ou plutôt de Jimizo au Cytotec, c'est la même chose. Et volontiers, d'ailleurs, on met les comprimés en intravaginal. Ça marche c'est très bien. Et les ruptures retirées, en général, on les a vues en utilisant ce produit-là en intravaginal. On met des petits bouts de comprimés qu'on met au niveau vaginal. Et ça marche. Et du coup, ça accélère. Simplement, quand ça comprime sur un utérus distendu, dans certains cas, l'utérus est un peu plus fragile, etc., il peut y avoir des hémorragies et il peut y avoir au maximum une perforation utérine, voire une rupture utérine. Donc ça, c'est embêtant. Parce qu'après, ça veut dire intervention en urgence et hystérectomie. Hein, on ne recoupe pas une rupture utérine, parce que sinon, de toute façon, l'utérus, il ne sert qu'à faire des grossesses. Hein, c'est pas... Et donc, si de toute façon, il y a contre-indication à des grossesses, autant enlever l'utérus, plutôt que d'avoir des tas d'ennuis liés à un utérus qui ne sert plus à rien, qui reste dans la... Donc, en fait, donc c'est assez lourd quand même comme conséquence, surtout si on n'intervient pas tout de suite et qu'on laisse une hémorragie et la personne peut en décéder si on n'intervient pas rapidement. C'est une urgence, une rupture utérine. Donc, on s'est retrouvé avec cette utilisation clandestine par des obstétriciens qui disaient « mais ça marche super bien, en plus ça coûte 3 sous et ça permet d'éviter des tas de trucs, donc ça accélère, comme ça, bon, il y en a marre, moi, il faut que j'aille me coucher, j'aimerais bien qu'elle accouche, que c'est ça la vraie vie, hein. Voilà, bon, allez, hop, on va l'accélérer, chère madame, vous allez accoucher, sinon on y sera encore dedans, et un petit peu. » Donc c'est ça l'histoire de Cytotec, c'est totalement non autorisé, totalement non autorisé.
Il y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est tout. Le Cytotec, il y a une étude du Lancet, dans le Lancet, qui est sortie en 2006, qui précisait que le Cytotec était très efficace contre les hémorragies du postpartum.
Oui, ça déclenche les hémorragies. Hein.
Et oui, je sais bien. Mais cette étude du Lancet prouvait qu'effectivement, il était efficace dans les hémorragies du postpartum.
Oui, alors.
Il a été un petit peu utilisé pour ça aussi.
D'accord, voilà. Mais bon, le grand truc, c'est le déclenchement du travail quand même. C'est là qu'il y a le problème des ruptures utérines. Et donc, voilà, donc problème. On se retrouve dans. Non, pourquoi je. C'est ce cas tout récent, hein, qui n'est pas complètement statué, est intéressant par rapport au sujet, il est en plein dans le sujet. On se trouve dans un truc où finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors on va porter plainte. On parle de scandale sanitaire, de crise sanitaire, hein. C'est les termes employés par la presse. Qu'est-ce qui se passe? Ce produit-là est contre-indiqué chez la femme enceinte. On peut l'utiliser en tout début de grossesse uniquement pour faire des IVG. Et sous un autre nom, c'est pas Cytotec. Cytotec, on n'a pas le droit. Voilà. Et il y a des gens qui vont le prescrire pour accélérer les accouchements. Donc le laboratoire, lui, les laboratoires, ils sont. Ils n'ont aucun problème. Tout est écrit, ils ont fait toutes les études, le machin. Il est écrit partout qu'il ne faut pas le donner. Hein. L'agence du médicament, elle n'a pas fait de complaisance. Elle a mis les trucs, c'est écrit, c'est encadré qu'il ne faut pas donner à la femme enceinte. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Parce que si on a un produit intéressant pour les ulcères gastriques et duodénaux qui va diminuer la sécrétion acide et protéger les cellules, cet effet cytoprotecteur, bah c'est quand même dommage de priver les patients ayant des ulcères gastriques, du moment que ce ne sont pas des femmes susceptibles d'être enceintes, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes en période d'activité génitale n'ayant pas une contraception efficace, bah dans ce cas-là, on ne va pas priver ces patients de ce traitement-là. C'est idiot. Il suffit d'utiliser le produit. Pourquoi il doit être utilisé? Point barre. Et là, en fait, bah, les gens qui sont responsables, ce sont les obstétriciens qui ont utilisé ce produit et qui ont eu une rupture utérine. On revient à ce que je disais au début, c'est que quand on est hors AMM ou hors guidelines et qu'il y a un accident, eh ben, on en prend plein la gueule parce qu'on n'avait pas le droit. En plus, si on n'a pas prévenu la patiente et qu'on n'a pas une preuve écrite qu'elle a été informée, qu'elle est d'accord pour qu'on le fasse quand même, malgré les risques, comme il a expliqué, bon, expliquer aux gens, on va vous donner ce traitement, il peut vous faire une rupture utérine. Ouais. Les gens, ils vont peut-être pas le faire, mais ils vont peut-être dire oui, parce que c'est rare. Enfin, on demande au patient de prendre une décision dans un domaine où elle n'a aucune idée, elle n'est pas compétente, elle est vulnérable parce qu'elle a son problème de grossesse qui ne se termine pas, etc., d'accouchement qui n'arrive pas. On leur demande, on met sur le patient un poids énorme de décision, ce qui est bien sûr totalement bidon, en fait, d'un point de vue responsabilité médicale, et c'est sûr que là, on en rompt plein la gueule. Or, aujourd'hui, on accuse l'agence du médicament, comme c'est pas croyable, alors qu'elle est pour rien. Tout est clair, net dans les trucs. Elle dit non, il ne fallait pas le donner. On va accuser, bien sûr, le laboratoire pharmaceutique, forcément, par principe. Hein. Voilà. Et puis, mais en fait, c'est le problème. Et ce qui est intéressant quand on observe ce qui se passe, c'est de voir que le procès prescripteur, qui déconne, en fait, c'est lui qui a utilisé son produit hors autorisation. Bon, il l'a fait de son. Il a le droit de le faire, ce n'est pas illégal. Simplement, s'il y a un problème, il faut qu'il ait un cas très solide. Il faut qu'il explique pourquoi, dans ce cas précis, il fallait vraiment le faire. Bon, et c'est pas évident quand même, parce que accélérer un accouchement, il y a d'autres façons. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est important d'avoir un suivi d'un produit qui est sur le marché. Hein. Et on a des exemples comme ça, très pratiques, très concrets et très actuels, on en a tout le temps. Voilà. Donc, alors il peut y avoir des nouvelles indications. Par exemple, c'est très classique en cancérologie. On a un nouvel anticancéreux extraordinaire. Donc, on va le développer dans le cancer du côlon. C'est super, il marche bien. Donc, il a son AMM, etc. Mais ce produit-là, il va peut-être avoir une très bonne efficacité dans les cancers de l'estomac, ou dans les cancers du pancréas, ou dans les cancers du poumon. Parce que les anticancéreux, parfois, ont des activités sur différents types de cancers. Donc, dans ce cas-là, on commence par bien travailler une indication très solidement. On assied bien le rapport bénéfice-risque. On a la même, puis on continue à faire du développement, et puis on va bâtir tout un dossier des études dans le cancer de l'estomac, par exemple, de tel type, et hop, on va redemander une indication, on va redéposer un dossier de la même pour nouvelle indication. C'est comme ça que le produit continue à vivre après mise sur le marché, de façon très dynamique des fois. Au bout de 20 ans, alors c'est pas 20 ans de vie, en fait, c'est 20 ans depuis sa découverte, depuis le dépôt du brevet. Et entre le dépôt du brevet et la mise sur le marché, il y a au moins 10 ans. Donc en fait, c'est souvent plutôt 8 ans de vie. Sur le marché qui est protégé par le brevet. Après, c'est les génériques. Après, le produit est dans le domaine public et on peut le commercialiser. Voilà. Alors, il y a des produits à la surveillance renforcée, le triangle noir. Bon, là, on est dans des détails. Hein. Alors, la pharmacovigilance, elle marche comment? On va surveiller les médicaments qui sont disponibles pour voir ce qui se passe. Quoi. Alors, il y a plusieurs façons. Tout est basé dans le système français sur la notification. Sur la déclaration spontanée des cas par les gens. Les gens, c'est qui? C'est les patients. Depuis un certain temps, depuis pas mal d'années, les patients, depuis 3, pas 10 ans, mais presque, avant, non. Il fallait qu'ils passent par leur médecin. Et c'est le médecin qui déclarait. Donc depuis, je crois que c'est 2011. Sûr. Donc les patients peuvent déclarer, ils ont un formulaire spécial, et même depuis mars dernier, avant l'histoire du dévotirol, avant le changement de formule, ils avaient le droit de déclarer en ligne, les patients. Donc le patient, il va déclarer, ça va, il y a des centres régionaux, il y a 31 centres régionaux de pharmacovigilance, donc ils vont déjà faire travailler tout ça, mettre dans des bases de données, tous les effets qui sont indiqués vont aller dans la base de données. Vous, vous prenez un produit pour l'hypertension, vous marchez dans la rue, vous glissez sur une peau de banane, vous le rapportez, ça sera noté. Alors que, bon, on ne comprend pas le rapport qu'il peut y avoir, mais ça ne fait rien. On ne sait jamais. Donc tout est noté. Que l'effet soit imputable ou pas au traitement. La question de l'imputabilité, elle vient presque toute une démarche, mais on prend tout. Parce qu'on ne sait jamais. Imaginez que ce traitement fasse glisser sur les peaux de banane et qu'on se rende compte plus que toi des gens qui n'ont pas de traitement. Donc dans ce cas-là, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on prend. Voilà. Donc les patients rapportent ça et ça monte après au niveau du Comité national de pharmacovigilance qui dépend de l'Agence du médicament, qui elle-même dépend de la DGS, qui elle-même dépend du ministère de la Santé. Les médecins, les professionnels de santé en général, d'ailleurs, déclarent. D'habitude, c'est eux qui déclaraient. Ils ont l'habitude. Ils ne sont pas obligés de déclarer un effet secondaire, c'est eux qui les jugent. Hein. Par contre, s'il y a un effet grave ou inattendu, un peu bizarre, là, ils ont obligation de déclarer et dans un délai donné. Sinon, ils déclarent, c'est eux qui jugent. Hein, c'est eux qui les jugent. Bon, parce que sinon, on est inondé par des tas de trucs. Et puis, il y a un docteur, j'ai un petit peu mal à la tête depuis quelques jours. Ah ben, il est sous traitement de je ne sais pas quoi. Bon, ben. Ouais, le médecin il va peut-être dire non, c'est, d'accord, vous avez mal à la tête, vous êtes une migraineuse, vous faites une... on ne va pas forcément le déclarer, sinon, après, trop d'informations, après, ça va donner des choses où on ne va pas se couper. Mais même, on peut déclarer, hein, disons qu'on n'est pas obligé, si ce n'est pas grave. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a un effet grave, même si on pense que ça n'a rien à voir, on est obligé de le déclarer, parce qu'il y a un traitement. Et puis, les industriels, il faut savoir que dans les labos pharmaceutiques, il y a des services de pharmacovigilance très étoffés et très compétents, donc ils ont plein d'infos. Il y a des gens qui appellent le laboratoire, qui écrivent en disant « j'ai tel problème, qu'en pensez-vous ?» Ils appellent le service de pharmacovigilance du labo, qui note. Hein, moi, j'ai passé mon temps à monter des équipes de pharmacovigilance et à les former. Ils notent tout ça, et puis ils rapportent tout. Les visiteurs médicaux, ils vont voir les médecins, donc ils vont régulièrement, ils vont parler qu'il y a du dernier antihistaminique, ou je ne sais pas quoi, que des derniers, il n'y en a pas, ça fait 30 ans qu'il n'y en a pas de nouveau, ou autre. Et le médecin lui dit, tiens, en fait, j'ai un patient qui, il y a 3 semaines, a fait tel truc, qu'en pensez-vous ? Eh bien, il note, le visiteur médical, et il rapporte, il est obligé de rapporter tout au laboratoire, qui lui est obligé de tout rapporter au niveau de la base de données centrale. Tout doit être rapporté. Quelle que soit l'imputabilité possible. Voilà, ça, c'est le système de base basé sur la déclaration spontanée, la notification, qui est la base, le cœur du système français de pharmacovigilance. Alors, bien sûr, quand on déclare, il faut qu'il y ait un patient, qu'il y ait un produit, qu'on sache, parce que des fois, il n'y a rien. Hein. Il faut savoir, il faut décrire un minimum, quoi, qu'on sache de quoi on parle. Sinon, on ne va pas le prendre. Hein. Ou si on dit, tiens, il y a quelqu'un qui a eu un problème... il y a 2 ans, avec je ne sais plus quel produit, on ne prend pas. On ne peut rien en faire. Hein. Donc, alors ça, c'est depuis mars 2017, comme je vous le disais, les patients peuvent déclarer en ligne. Mais avant, oui, j'aurais dû intervertir les diapos, ça c'est un formulaire où il a l'air un peu compliqué, c'est le formulaire spécial pour le patient pour déclarer. Alors, on lui demande de s'identifier, on lui demande de dire les traitements qu'il prenait, le médicament, quelle dose, et de quand à quand, et puis après de décrire ses symptômes, hein, il faut quand même avoir ses infos. Alors il remplit ce qu'il peut, hein, mais ça c'est une fiche CERFA officielle pour le patient, pour qu'il déclare ses effets indésirables. Alors après on va faire l'imputabilité. Donc il y a des méthodologies très compliquées, rigoureuses, c'est très difficile, qui vont faire entrer en ligne de compte un certain nombre de choses. Il y a un effet secondaire chez quelqu'un qui prend un traitement. S'il avait porté le traitement, il aurait peut-être eu cet effet secondaire. Il aurait peut-être eu ces symptômes. Ah, il a mal à la tête. Ah oui, mais est-ce que c'est le traitement alors que ça peut. S'il avait porté le traitement, il aurait peut-être eu pareil, mal à la tête. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut penser que c'est une relation de cause à effet ? C'est ce qu'on appelle l'imputabilité. Ça, c'est très compliqué et ça demande pas mal de choses. Alors, bien sûr, il y a un facteur chronologique. C'est sûr que si quelqu'un prend le traitement et le lendemain, il a un problème, voilà, bon, on va dire qu'il y a une relation. Non, il y a une relation chronologique. Qu'est-ce qui permet de dire que s'il n'avait pas pris, il aurait ce symptôme ? C'est compliqué, parce qu'on a tous à un moment donné des petites choses qui ne vont pas. Si on a pris juste un médicament juste avant, on va l'accuser. On n'en sait rien, peut-être, peut-être pas. Donc la chronologie est importante. Alors ce qu'on aime bien, alors c'est pas toujours facile à faire, c'est s'il y a d'abord tenir compte du délai. Si le patient prend son traitement depuis 2 ans, et il dit tiens, j'ai mal à la tête, c'est à cause du traitement, on dit attendez, bon, c'est peut-être pas de rapport quand même. S'il vient de le prendre, bon. Et s'il le prend trop, s'il a trop vite le truc, des fois, on va dire, oui, c'est trop tôt, ça peut pas être ça. Voilà, donc on va réfléchir là-dessus, en fonction du côté médical. médicale. Et on aime bien faire des challenges. Si on est dans une maladie chronique, ben on va arrêter le traitement, on va regarder ce qui se passe. Ah, tiens, ça disparaît. Et on aime bien, après, on va réintroduire. Et juste après, pof, ça recommence. Ah, ça, c'est des arguments qu'on va prendre en compte. Et là, il faut que ça soit rigoureux. C'est ce qu'on appelle le déchallenge et le challenge. Si on voit que la chronologie, c'est pas une fois, il se trouve que la personne a vomi alors qu'elle avait pris un traitement depuis deux jours, oui, c'est peut-être ça. Hein, mais voilà, donc on aime bien revérifier pour sortir de la simple relation chronologique. Et la relation chronologique n'est pas une relation de cause à effet. Une relation de causalité. Et puis après les signes, hein, on va regarder en fonction des signes si ça a du sens. Si ça n'a aucun sens, bon, on ne sait pas, mais quand même, l'imputabilité va être faible. Si ça a l'air d'être très logique par rapport au mécanisme d'action du produit et toutes les propriétés pharmacologiques qu'on connaît du produit, ben on va dire rien peut-être. Puis la bibliographie, ce qui a déjà été décrit, est-ce que ça a jamais été décrit ou pas? Et on va après dire, ben, c'est certain, il y a une relation. Ou bien, non, a priori, il y a vraiment pas de relation. Et puis il y a tous les intermédiaires. C'est possible, on va dire c'est possible ou c'est plausible. Après, il y a toute une terminologie de pharmacovigilance qui entre dans la nuance parce que c'est difficile. Et c'est vrai que les cas isolés, après, il faut en avoir plus. Hein, parce que s'il y en a, il y a comme cas dans un coin, on va dire que c'est quand même bizarre. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres pour vérifier. Alors, quand on voit un effet indésirable qui a l'air d'avoir une imputabilité assez vraisemblable, eh bien là, on va prendre des mesures. On peut retirer le produit, on peut enlever l'ARN. On peut la suspendre temporairement, le temps de faire des études complémentaires en disant non, il faut qu'on regarde. Okay. Voilà. Donc ça peut être le titulaire de l'ARN, souvent on va demander lui-même. Dire, attendez, moi je ne veux pas avoir de pépins, on arrête la commercialisation du produit, on va faire telle et telle étude pour vérifier ce qu'on a précisément, et puis on verra si on met sur le marché. Parce que ce n'est pas l'intérêt de l'acteur pharmaceutique de laisser sur le marché un produit qui va poser des problèmes, parce que ça va bousiller l'avenir du labo en entier, pas que du produit. Alors, on peut modifier ce qui est écrit dans le RCP, ce qu'on appelle c'est le résumé des caractéristiques du produit, c'est ce qu'il y a dans le Vidal. On peut le modifier en disant, bah, attention, là, contre-indication, faire attention, vous conduisez des machines, donc là, on a vu que ça pouvait donner des sonores, donc du coup, on va ajouter la mention vigilance particulière, si on a, etc. On va pouvoir, la grossesse, et on va ajouter une mention spéciale. Quoi. Pour les mentions interdiction pendant la grossesse, ça, on y va largement. Hein. On préfère éviter les traitements pendant les grossesses autant qu'on peut. Si on a le moindre doute, on dit que c'est contre-indiqué. Voilà, et puis dans les discussions, après il peut y avoir des accords, tout ça, ça se discute, et puis après on communique sur les mesures vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis du public. Ça, c'est le phénomène normal. Bon, la pharmacovigilance, il y a beaucoup de directions à l'intérieur du centre national. Hein. Il y a les dispositifs médicaux, les médicaments, les produits biologiques, c'est autre chose, les matériels, voilà, les laboratoires, c'est l'analyse. Ça peut faire partie du truc, c'est assez compliqué. Le gros, c'est quand même la partie médicaments et produits biologiques. Les pharmacodépendances, hein, les gens qui viennent accro à un produit, ça fait partie du sujet. Tout ce qui est mis, enfin, c'est compliqué. Voilà, dans l'affaire du Levothyrox, alors ce qui s'est passé de très particulier, parce que l'histoire du Levothyrox était quand même invraisemblable, on n'a jamais vu ça, c'est passionnant hein, au niveau de ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que les gens, vous avez vu, il y a tout un système qui fait que s'il y a des problèmes qui arrivent, ça remonte naturellement par des procédés bien établis, bien connus des médecins, et les patients peuvent être informés souvent sur les réseaux sociaux. Au lieu d'apprendre des bêtises, il ferait mieux d'aller voir comment on peut rapporter un effet indésirable soi-même. C'est plus intéressant. Mais ils ne le font pas. Donc, on se retrouve dans une situation où les effets indésirables sont déclarés plus vite dans les réseaux sociaux que par le système de pharmacovigilance. Avec tout son système, toute sa méthodologie et ses réseaux. Et la FDA avait fait une étude, d'ailleurs, c'est pas nouveau ça. Sur 10 ans, ils ont vu qu'il y avait 10% des effets indésirables graves, qui remontaient toujours plusieurs jours après que les gens en aient parlé sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ça complique tout. Parce que ce bel édifice, cette méthode qui est censée, on collecte les trucs, on regarde, on analyse, on interroge, on va aller faire une enquête sur le. Sur place, on va interroger le médecin, voir le patient pour bien voir ce qui s'est passé. Tout ce travail très sérieux qui fait qu'on analyse, on étudie bien en profondeur avant de dire des bêtises, tout ça peut plus le faire, puisqu'on va sur les réseaux sociaux et les gens décident eux-mêmes que c'est tel médicament qui a donné telle chose. Du coup, toute la procédure, la façon de fonctionner normale de la pharmacovigilance est complètement course à compter. Elle ne peut pas fonctionner, elle est paralysée. Là, avec le Levothyrox, c'est ce qui s'est passé. Et comme il y a eu des numéros verts qui ont été créés sur la pression de l'opinion publique, donc les gens ont été inondés de tas de déclarations dans tous les sens. Moi, je connais plein d'amis d'IES, qui est quand même 9 femmes sur 10 qui prennent du Levothyrox, qui allait très bien avec la nouvelle formule. Mais sans doute, quand même, faut... ah oui, mais quand même, si je réfléchis, il y a 3 mois, etc. Donc on arrive, on a généré des angoisses, des inquiétudes et des relations de petits troubles fonctionnels avec le changement de formule par toute cette amplification. Du coup, les centres de pharmacovigilance ont été débordés de déclarations dans tous les sens. Donc plus il y en a, ben, moins on va bien les traiter. En plus, on s'est rendu compte que sur les numéros verts, il y a des gens qui appelaient eux-mêmes un nombre incalculable de fois. Pour dire comme ça, je rappelle, comme ça ils vont comprendre que. Voilà. Du coup, donc il fallait faut prendre qu'un effet secondaire d'une personne, on ne va pas le prendre 10 fois. Donc on s'est retrouvé dans une espèce de bazar qui fait que ce bel édifice très professionnel de pharmacovigilance s'est trouvé paralysé. Hein. Donc ça, c'est un problème. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La FDA a dit, on va aller voir sur les... Maintenant, pour qu'on aille voir sur les réseaux sociaux ce que déclarent les gens. Et il va falloir aller regarder, et peut-être qu'on va trouver des états désirables qu'on va prendre en compte avant que les gens nous les déclarent. Sinon, on va passer à côté. Et l'agence des médicaments demande au laboratoire pharmaceutique d'aller voir sur Internet ce qu'ils disent sur leur produit. Alors bon, c'est un sacré boulot, il va falloir des études spéciales. Ça, c'était pas prévu. Voilà, donc tout ça c'est compliqué, mais vous voyez bien que la règle du jeu, sur un édifice de réseau et de fonctionnement qui tenait bien la route, on se retrouve avec un paradigme très différent. Alors, le prix du médicament, comment ça se passe? Quand on a obtenu, quand une firme pharmaceutique a obtenu une AMM, s'il n'y a pas de remboursement, elle met le prix qu'elle veut. La notion de prix contraint, c'est uniquement s'il y a remboursement. Donc là, on demande à la HAS, voilà, transparence, la décision finale de remboursement, c'est publié au JO. Voilà, bon, bah, c'est le truc. Bon, alors, bon, on revient, il y a des... Alors, on va faire en compte, il y a un dossier médico-technique, un dossier économique, une note d'intérêt économique, parce qu'on va pouvoir voir si le traitement est plus cher que ce qui existe, mais qu'au total, il va économiser 3 jours d'hospitalisation, au prix de l'hospitalisation. Du coup, on va dire, au total, il est peut-être plus cher, mais il va économiser au niveau de la santé. Donc, on fait beaucoup d'études médico-économiques qui sont construites spécialement pour ça, pour regarder, on calcule tous les coûts, et on regarde le delta, ça peut coûter plus cher ou moins cher. L'intérêt, c'est quand ça coûte moins cher. Hein. Donc, alors, évidemment, c'est compliqué. Si on évite du handicap, si on diminue une durée d'arrêt de travail, si on diminue l'hospitalisation, il faut le quantifier au niveau financier. Et du coup, ça contrebalance la notion de prix du médicament. Et c'est bien l'ensemble de cette discussion, de ces éléments médico-économiques qui sont pris en compte. Ce n'est pas que le prix du médicament. Ah, il est plus cher. Ah oui, mais il faut voir le global. Donc ça, c'est assez compliqué. Il y a des spécialistes de ça et on fait des études médico-économiques très souvent. Sinon, comment on va fixer le prix? On va dire, ah oui, mais du coup, les gens sont moins hospitalisés. Ah bon? De combien de jours? Combien ça coûte? Combien on économise vraiment? Il faut le mesurer. Et dans des vraies études prospectives. Donc c'est compliqué. Alors, prix de vente en vie d'accord, voilà, bon, SMR, tout ça. Voilà, alors, quand on a un niveau 5, bon, si vraiment le produit est moins cher, là, on va peut-être quand même le rembourser. Hein, et quand c'est 1, le produit est très bien, là, on va pouvoir avoir un prix qui va être supérieur au précédent. Parce qu'on peut très bien obtenir un prix, le CEPS peut fixer un prix pour un nouveau médicament qui va être plus bas que celui de l'existant. Ok, très bien, vous apportez pas grand-chose, mais vous êtes conforme à ce qui existe, vous appelez mieux, on vous donne un prix, mais plus bas. Là, on est déjà c'est ce qu'on appelle les MeToo, hein, c'est un peu pareil. On est presque dans la démarche, on se rapproche des génériques, là. Donc, ça vaut moins, parce que vous êtes arrivé après. Donc, tout ça, c'est le taux de remboursement, d'accord. Après, vous savez, il y a des trucs de couleurs différentes. On peut rembourser à 15%, à 65%. Le maximum, c'est 65%. Après, c'est les mutuelles qui complètent. Alors, le problème du prix est crucial en cancérologie. Parce qu'on a une explosion extraordinaire du coût des traitements en cancérologie. Partout dans le monde, hein, aux États-Unis, ça a été dramatique. Donc, pourquoi cette explosion du coût? D'abord parce que c'est un vrai problème, parce que les patients, nous, on ne peut plus payer. On arrive au milieu d'année, on n'a plus d'argent. Donc, on ne va pas vous rembourser. Pourquoi les coûts explosent? D'abord, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits. On a beaucoup travaillé sur les concepts, sur l'explication des cancers. C'est-à-dire, on a plein de nouvelles solutions thérapeutiques. Première chose, s'il y a des nouveaux produits, un produit qui a 20 ans, il va avoir un prix très bas. Parce qu'au fil du temps, le produit a été amorti et le prix il va baisser. Un prix de médicament, il n'augmente jamais en cours de sa vie. Il diminue tout le temps. Donc il part d'un certain niveau, puis après il baisse, et à la fin il vaut des cacahuètes. Il vaut le prix de la boîte et du blister. Donc, mais au début, il peut être très cher, parce que le prix de développement de médicaments, je vous ai dit, c'est plutôt 1 milliard d'euros. Donc c'est énorme, il faut bien le payer, il faut bien le rembourser. Sinon, on arrête de développer des médicaments, il n'y aura plus de nouveaux médicaments pour les patients. C'est un choix de société. Donc, l'autre particularité, c'est qu'on va de plus en plus, et notamment en cancérologie, vers la médecine personnalisée. On s'est rendu compte, le cancer du sein est un très bon exemple. On ne dit pas, vous avez un cancer du sein, madame. Vous avez tel type de cancer du sein, vous avez tel type de biomarqueur. Vous êtes R2 positif, ou vous êtes estrogène positif ou négatif, progestérone positif ou négatif. Si vous êtes triple zéro, c'est-à-dire ni R2, ni estrogène, ni progestérone, vous n'avez pas les récepteurs, vous avez une forme particulièrement grave. Donc les traitements classiques ne vont pas marcher. Donc en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas le même traitement. Ce n'est pas le même traitement qui va être efficace, et vous n'allez pas avoir la même tolérance. Avant, on traitait les cancers du sein avec une nouvelle chimiothérapie. On a 80% de succès et 20% d'échecs. Donc on appelait ça des répondeurs. Il y a des gens, tiens, quand on leur donne, ça marche. 80% de réponse. Et 20%, ils sont non répondeurs. Alors c'est passionnant, mais pourquoi il y en a qui ne répondent pas? Et on se demande. Donc maintenant, on arrive à un stade, pourquoi il n'y a pas de raison, pourquoi ça ne marche pas chez eux? Donc ils sont différents des autres. Et donc toute la réflexion actuelle, déjà aujourd'hui, déjà depuis 10 ans, on fait de la médecine personnalisée en cancer du sein depuis 15 ans, mais de toute façon c'est la médecine de demain. Vous avez une hypertension artérielle, au lieu de commencer par un diurétique, après on va donner un anticachique, on va ajouter un IEC, etc., un bêta-bloqueur. Donc maintenant on va faire des biomarqueurs. Monsieur, on va directement à tel traitement parce que les autres, ça ne marchera pas. On va gagner des mois de tâtonnement parce qu'on a pu définir votre catégorie. Alors quand on fait ça, c'est très bien. On va éviter des effets secondaires inutiles, on va éviter de perdre du temps, on va aller droit au but. C'est très très bien. Mais du coup, on va se retrouver à éclater une pathologie donnée en pleine petite population. Le cancer du sein, bon, si vous avez, je sais pas, 3 millions de cancers du sein, vous en avez 50 000 qui ont un groupe particulier qui a un traitement complètement différent des autres. Eh bien, les 50 000, ils vont assumer les frais de développement qui avant étaient assumés par 3 millions. Donc, du coup, pour cette petite population, relativement, le prix individuel va être beaucoup plus cher. Donc, c'est un problème. Et en fait, avec cette médecine personnalisée qui permet d'améliorer terriblement la prise en charge thérapeutique des patients, on se retrouve à créer des maladies rares. Une maladie rare, c'est moins de 1 patient pour 2 000 personnes. Définition européenne. Donc on va créer des maladies rares à partir de maladies fréquentes, en segmentant. On fait des sous-populations qu'on va prendre en charge différemment. Et les maladies rares, c'est compliqué parce qu'il y a moins de patients et il faut qu'un nombre limité de patients assume le coût d'un développement. Donc c'est compliqué et donc ça augmente le prix individuel. Et comme en plus les cancers sont tous des problèmes génétiques. Au sens qu'il y a des mutations au niveau de l'ADN, ça ne veut pas dire qu'ils sont héréditaires. Il y a, on considère qu'à peu près 10% des cancers qui sont héréditaires. Génétique ne veut pas dire forcément héréditaire. Bon, là, c'est pour dire que le marché, voilà. Mais il y a des changements au niveau de l'ADN, ce qui fait que la cellule, qui était normale, d'un seul coup, elle est déréglée et elle va devenir immortelle. Premier coup, le cancer, c'est une cellule qui est devenue immortelle. Donc il y a un dérèglement au niveau du patrimoine génétique de la cellule, qui après va se multiplier, tout ça, et puis elle ne va pas mourir parce qu'elle est immortelle, alors que les autres meurent, donc à la fin, elle va prendre le pas sur les cellules normales. Donc du coup, en connaissant, en identifiant le génome, en décryptant le génome et en faisant des regroupements, on arrive à encore mieux segmenter les maladies rares. Et comme ce sont des choses génétiques au niveau de la cellule qui se passent, des anomalies acquises. En général, ça peut être lié au tabac, aux facteurs, à des tas de choses. Mais au total, ça se traduit par la modification de l'ADN. Eh bien, les cellules cancéreuses, elles vont s'adapter. Si vous allez taper avec une chimiothérapie sur un type de mécanisme, elle va trouver des voies de contournement. Et à la fin, il va y avoir échappement au traitement. Il va y avoir rechute. Donc ça, c'est... Parce que le génome est très complexe. Donc il y a toujours des voies détournées. C'est comme une bactérie qui vient résister une résistance à un antibiotique. Elle trouve le moyen, ou un insecte, ou un phytosanitaire invisible qui contourne. Donc, il va falloir y avoir des résistances. Donc, pour éviter l'apparition de résistances, on fait des cocktails de chimiothérapie. C'est rare qu'en chimiothérapie anticancéreuse, on vous donne un seul médicament. On va vous en donner plusieurs, 3, 4, 5. Parce que comme ça, dès qu'il y a un mutant résistant qui apparaît à un chimotari, pof, il y a l'autre qui va prendre le relais et qui va zigouiller la cellule qui a réussi à contourner le traitement. Donc du coup, si on donne plusieurs médicaments pour une chimiothérapie en anticancéreuse, ça va coûter plus cher. Voilà. Donc il y a des raisons qui font que ça coûte très cher. Et il y a eu donc en France, il y a eu le fameux appel des 110, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être un an, 110 cancérologues qui ont dit arrêtons, les prix des produits anticancéreux sont beaucoup trop chers. Donc grand témoi dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, alors aux États-Unis ça coûte deux fois plus cher hein, les anticancéreux. Donc, le problème, c'est comment on fixe le prix d'un anticancéreux. On n'est pas dans un système d'offre et de demande. On est dans un système réglementé et contraint, un secteur administré, parce qu'il y a des payeurs. Et le payeur n'est pas le patient. C'est des organismes qui payent à sa place. Donc, dans un système où le patient est le payeur, il y a une régulation des prix qui se fait naturellement. Hein, vous achetez une bouteille de lait, le prix va être fixé en fonction du marché. Là, non. C'est les payeurs. Donc, ça se négocie. Donc, du coup, c'est très compliqué de fixer le prix. C'est quoi la valeur du produit? Est-ce que c'est les frais de recherche et de développement qu'il va falloir? Oui. Mais c'est pas parce que si le produit a coûté très très cher, s'il n'apporte pas grand-chose, est-ce que c'est l'utilité? Ce produit est révolutionnaire, donc il vaut cher. Pas que. Donc, en fait, il y a un équilibre entre les deux hein, qui se fait. Et donc, il y a des discussions et c'est très compliqué. Alors, comme on a cette explosion extraordinaire du prix et que les payeurs n'arrivent plus à payer dans tout le monde occidental, on a cherché des solutions de fixation de prix. Alors, on arrive à des trucs que vous allez trouver très bizarres, mais qui sont aujourd'hui à la mode et qui ont déjà lieu aux États-Unis et qui arrivent en France. On va faire, par exemple, le capping. On va dire le laboratoire pharmaceutique, il va s'engager pour traiter un certain nombre de patients chaque année. Je vais traiter 5000 patients. Et à partir du 5001e, c'est plus les payeurs, c'est le labo qui prend en charge le produit. C'est ce qu'on appelle le capping. Donc on met un truc. Donc on s'engage sur ce volume. Là, on a un bon prix, tout va bien. Au-dessus, les payeurs ne payent pas. Par contre, on traite quand même les patients au frais du labo. Donc ça, alors ça fait bizarre, hein, mais c'est quelque chose. Parce que le but, c'est de continuer quand même à traiter les patients. On va pas dire, écoutez, désolé, la caisse ne sait plus, il n'y a plus de sous, donc on vous traite pas. On ne peut pas faire ça. Le cost-sharing ou le risk-sharing, c'est assez proche. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cost-sharing, le laboratoire pharmaceutique va payer les premières semaines de traitement. Et si ça marche bien, on est en cancéro là. Si ça marche bien, eh bien, ils continueront le traitement et la sécu remboursera. Le risk-sharing, c'est que on traite des patients, et si ça ne marche pas, c'est le labo qui paye. La sécu ne rembourse pas. Vous voyez, c'est des choses quand même qui nous dérangent.
C'est l'expérimentation.
Nous, c'est arriver à traiter les patients, arriver à ne pas priver les patients de traitement, tout en faisant pas trop exploser les caisses. Voilà. On trouve des solutions qui, dans notre culture, peuvent être. Vous êtes choqués par ça ou pas?
Non.
Bon, alors, ça tombe bien parce que c'est ce qui arrive. Hein. Donc, alors là, alors il y a plein d'exemples. Je suis désolé, mais il y a tellement de choses à dire. Bon, alors j'ai plein de trucs à dire sur les grands cas. Hein. Les vaccins, il y a l'histoire de l'aluminium, il y a l'histoire de l'obligation vaccinale et il y a l'histoire des calendriers. Tout ça, les gens mélangent tout. Hein. On mélange dans les médias l'histoire de l'obligation vaccinale et de l'aluminium. Alors bon, l'aluminium, hein, il y a eu une étude avec le fameux Gherardi, hein, bien connu, qui a fait des petits trucs chez la souris, qui sont absolument pas extrapolables à l'homme, et tous les experts considèrent que, non, et l'agence du médicament en premier, qu'il n'y a rien aujourd'hui qui démontre d'une façon ou d'une autre une toxicité de l'aluminium dans les vaccins. C'est les doses très faibles, alors. Donc, oui, mais même les doses très faibles, tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de prouvé. Donc, par contre, si on met de l'aluminium, c'est pas pour le plaisir de recycler l'aluminium, c'est parce que ça a un intérêt fort, sinon on l'aurait enlevé, plutôt que d'avoir tout ce bazar médiatique. Le problème, c'est que ça vient du vent et ça renforce terriblement le pouvoir immunogène du vaccin. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse et qu'on n'a pas envie de l'enlever. Surtout qu'on n'a jamais démontré que ça posait un problème. Voilà. Donc, Dominique Martin, le directeur de l'agence du médicament, il a dit, mais ça, c'était il y a 10 ou 15 jours, hein. Ces recherches fondamentales isolées soulèvent des interrogations, invitent à continuer. Regardons, faisons des études, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre en cause le rapport bénéfice-risque des adjuvants, donc on continue. Ça fait 90 ans qu'on utilise ces adjuvants, l'aluminium dans les vaccins, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a rien en pharmacovigilance, on n'a rien qui donne un signal laissant penser que ça pose un problème. Alors après, il faut faire de
Gilles, plus. Gilles, juste la photo d'avant. La seringue, c'est la seringue et les bouts de mercure.
Ouais, c'est pour montrer, c'est pour faire rigolo.
Oui, mais le mercure, c'est un vrai poison.
Oui, mais là, non, attends, c'est une image pour rigoler.
D'accord. Ok.
Non, mais bah, là, il y en a aussi. Ça, c'est de l'alu, hein. Alors ça, c'est utilisé par les anti-vaccins anti-aluminium, donc ils aiment bien les images, tout ça, parce qu'il y a des campagnes anti-aluminium invraisemblables. Hein. Là, vous pouvez en voir. Ma vie foutue, merci d'alu. Là, il y a un film qui a été fait sur l'aluminium des vaccins et de lapin. Et c'est pas de l'aluminium, vaccin, un génocide planétaire. C'est ça la communication des anti-vaccins, c'est inimaginable. Aluminium, un poison légal dans nos vaccins. Donc il y a une campagne, il suffit de le dire pour que ça devienne vrai dans l'idée des gens. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors les obligations, déjà il y avait l'histoire d'une DCP avec trois valences au lieu de. Alors là, on voit que nos autorités, des fois, elles sont très mauvaises dans leur stratégie et dans leur communication, quand même. Parce que là, le ministère s'était engagé, comme il n'y avait plus de monovalents, hein, pour l'ictérie, c'est un oscolio, s'était engagé à remettre en circulation des monovalents, et ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, il y a eu une attaque, un recours au Conseil d'État, tout ça. Donc en fait, si on dit les choses, il faut les faire. Donc il y a des erreurs de communication assez étonnantes de la part de l'agence du médicament, et ça, c'est très embêtant. Donc il faut d'appeler. Alors, du coup, les gens, ils protestent. On n'écoute pas les patients, mais ça, c'est pas pour la médecine, hein, c'est pour plein d'autres choses. On doit se soumettre, on se soumet à l'autorité des grands professeurs, on nous demande de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Il y en a qui sont pour vous. Déjà, on est dans le complotisme. On vous interdit de réfléchir. On ne vous dit pas la vérité. La vérité est ailleurs, etc. Hop, on est dans la théorie du complot. Tout de suite. Et là, on voit, là, c'est des autruches, hein, là, et les femmes qui se mettent la tête fixable pour pas entendre, pour pas écouter, etc. Donc ça, c'est l'ambiance générale, multipliée à l'infini sur les médias officiels, hein, pas que les réseaux sociaux. Et alors, le calendrier vaccinal, c'est vrai qu'il a changé régulièrement, de façon bizarre. Donc ça, il est fixé, le calendrier vaccinal, par le ministère, et c'est vrai que le comité technique des vaccinations, etc., on voit le truc, et des fois il y a des choses bizarres. Une année c'est obligatoire, quelque chose, c'est à telle date, une année à une autre, et là les gens ne comprennent pas. Donc ça discrédite. Donc il faut avoir plus de continuité dans les choses. L'obligation vaccinale, maintenant il y a 11 vaccins. Hein. On râlait parce qu'il y en avait 3 d'obligatoires, et ben maintenant c'est 11. Alors il y a eu, le 11 octobre, hein, c'est très récent, une quarantaine de sociétés savantes et de syndicats de médecins ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils soutenaient l'extension de l'obligation des vaccins. Pourquoi ? Si on étend les vaccins obligatoires, il y a des raisons. Hein, et c'est ces raisons qu'il faut écouter. C'est pas dire, oh là là, ça fait beaucoup. Il faut prendre les maladies par une, voir pourquoi, voir ce que c'est, voir les conséquences. Et quand on réfléchit qu'il y en avait déjà sur les 11 3 obligatoires et que les 8 n'étaient pas recommandées, elles étaient fortement recommandées. Il y a des gradations. Et que à peu près en moyenne 80% des enfants recevaient déjà les 11, c'est faisable, c'est pas dramatique non plus. Simplement, le ministère de la Santé a jugé, à tort ou à raison, que le fait de créer cette obligation, parce qu'il y a des problèmes d'épidémie qui reviennent, notamment de rougeole, et la rougeole, c'est une maladie qui peut être mortelle. Donc il ne faut pas dire que c'est un truc que la maladie bénigne de l'enfance, on est mieux immunisé, tout ça, c'est pas vrai, ça tue la rougeole. Donc ça peut tuer, pas tout le monde, mais ça peut tuer. Donc voilà, donc les gens ont. Et là on voit les corps constitués dont j'ai parlé, l'Académie de médecine, machin, tout le monde s'y met pour donner son avis. Alors évidemment, comme dans ces histoires d'obligation vaccinale, les réseaux sociaux, bien évidemment, s'en donnent à cœur joie. Le ministère de la Santé se trouve coincé entre toute cette communication non contrôlée et non compétente par rapport à un langage posé et compétent. Donc ils ne savent pas quoi faire. Hein. On ne sait pas quoi faire. Donc Agnès Buzyn, très récemment, elle a rappelé devant l'Assemblée nationale, il y a 15 jours ou 10 jours, que l'aluminium contenu dans les vaccins est sans risque pour la santé aujourd'hui. On a inventé tout ça. Voilà. Donc arrêtons. Nous sommes dans. C'est elle qui a dit ça. Hein. Nous sommes dans l'irrationnel le plus total. Nous travaillons aujourd'hui à lutter contre les réseaux sociaux et contre la désinformation. Mais comment peut-on, quand on est une autorité décriée, déjà, être écouté avec les moyens de communication qui sont des moyens sérieux ? Donc déjà, quand on est dans des moyens sérieux de communication, on a beaucoup moins d'impact
que quand on fait n'importe quoi. Donc il y a des contrôles, on ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit. Par rapport à de l'irrationnel sur les réseaux sociaux où tout le monde affirme des choses, et les gens ils disent, bon, il n'y a peut-être pas de preuves, mais il y a tellement de gens qui le disent que ça doit être vrai. Donc l'inondation sur les réseaux sociaux est une technique très classique qui fait que les gens sont concernés. Donc pour eux, ça devient une évidence. Qu'il y ait des preuves derrière ou pas, ce n'est pas la question. Donc comment l'agence du médicament peut lutter contre ça, au ministère de ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont en position de faiblesse extraordinaire au niveau communication, dans tous les cas.
Alors, le Levothyrox... oui, alors, on attaque Bourdin, l'attaque Agnès Buzyn en expliquant, en la dévalorisant à fond. Voilà, et c'est lui, il a dit, il faut attendre que la justice... Alors ça, c'est vrai. Il faut attendre pour que les autorités se mettent à communiquer. Elles communiquent toujours trop tard et mal. Elles attendent que la justice soit saisie. Hein. Alors, l'histoire de l'amiante, c'est pareil. Les autorités ont mis du temps à dire, oui, il y a des problèmes de microcellium, etc. Tchernobyl, bon, c'est déjà ancien, le sang contaminé. Il y a quand même des gens, des officiels, directeur de l'agence du médicament, qui a fait 3 ans de tôle, quand même, hein, gros, etc. L'hormone de croissance, ça a été criant, de ces accès, bah, que faire, j'en ai plein, quoi.
Tout ça, ils communiquent très mal, trop tard et de façon non appropriée.
Donc, c'est en fait, le Levothyrox, c'est une crise de l'information, c'est justement pas une crise sanitaire.
Parce qu'en fait, quand il y a eu changement, il y a eu des raisons pour lesquelles il y a eu changement de nouvelles formules. Je ne vais pas les détailler, j'avais écrit un truc là-dessus sur le site pour expliquer l'histoire. Et pourquoi les gens se sont trouvés légèrement sous-dosés en L-tyroxine, en T4 ? Parce qu'il y avait un peu moins de charge en produit dans la fabrication, ça n'a rien à voir avec les excipients. Enfin, c'est lié parce que comme on l'a rendu plus stable, on avait moins besoin de surdoser au départ à la production. Donc du coup, on a eu quelques éléments, donc un petit peu de sous-dosage des patients, et qui ont des signes d'hypothyroïdie. Tout ce qu'ont signalé les gens, c'était des signes de gens qui sont un peu sous-dosés en Levothyrox. Donc il suffisait de le dire et de dire, bon, il faudrait adapter un peu, parce que c'est très fin l'ajustement des doses. Donc, réajuster un peu, hein, pour quelques personnes, pour un petit pourcentage de personnes, pour pouvoir un peu réadapter la dose. Voilà. C'est pas de toxicité, c'est pas des trucs. Et l'histoire qu'il y a eu extraordinaire est totalement disproportionnée par rapport à ça. Donc, on n'a pas prévenu les patients. Alors, il y a eu une communication qui a été faite en avril, au moment du changement de formule, vis-à-vis des pharmaciens et des médecins, mais pas des patients. Et les patients l'ont reproché. Alors, est-ce qu'il aurait fallu comment les prévenir ? Sans créer un drame, parce qu'on change une formule. Enfin, quand on a un générique d'amoxicilline avec des excipients différents, on ne va pas prévenir la terre entière. Donc, mais là, la différence, c'est que là, la finesse de la posologie est extrême.
Les médecins n'ont pas été mis au courant ?
Si, les médecins, les pharmaciens. Bah oui, eux, ils ont dit, tiens, on change le truc des excipients. Oui, ok, d'accord. Ils n'ont pas fait gaffe, même. Si, l'information n'a été faite qu'aux professionnels de santé. Et pas aux patients. Donc ça a été le reproche peut-être de communication. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on aurait pu communiquer à toute la population, aux 3 millions de personnes traitées, sans les affoler, parce qu'on change juste, on remplace du lactose par du mannitol. Le mannitol utilisé comme excipient dans tous les sens, ça ne posait aucun problème. Et des toutes petites doses. On ajoute un petit peu d'acide citrique. L'acide citrique, il y en a partout. Il y en a dans les bonbons Haribo, il y en a dans tous les sens. Donc tout ça, c'était pas pensable. Donc c'était pas prévisible. Mais cette histoire des Levothyrox est exceptionnelle, elle est exemplaire, elle fera date, et elle est très intéressante parce qu'elle cristallise finalement les choses qui auraient pu apparaître avec d'autres produits. Donc le problème de la gestion de la communication par les autorités de santé, qui sont par définition déjà, ont perdu de la crédibilité, dans un monde où les médias sont gérés totalement différemment. Donc là, il y a une adaptation totale à faire, il faut reprendre complètement toute cette façon de communiquer. Sinon, ils seront à la masse et ils continueront à en prendre plein la figure à tout moment. Alors, cela dit, c'est habitué. Hein. Voilà, donc, voilà, voilà. Bon, ok. Bon, je ne sais pas, il y aura le Levothyrox, là, il faudrait une réunion spéciale là-dessus. Alors, bien sûr, on s'est retrouvé avec des ventes sur Internet de produits qui se présentaient comme du Levothyrox ancienne formule. Ah, c'était la même boîte, tout ça. Hein. Donc, il y a eu une enchère à 40 000 euros sur eBay pour une boîte. C'est-à-dire que les gens. Elle est retirée, parce que eBay, quand même, il faut arrêter de déconner, d'être complice. De... Non, mais un truc qui vaut 4 euros. Donc, on s'est dit quand même que. Vous voyez l'état de psychose des gens qui sont prêts à payer des sommes folles pour un produit qui est probablement un produit frelaté dans lequel il n'y a peut-être pas de T4. C'est de la folie quand même de voir cette espèce de folie collective dans laquelle on se trouve. Et sur Doctor Online, qui est un site de machin,
c'est 100 euros la boîte au lieu de 4 euros. Donc, du coup, il y a toujours des gens qui profitent, hein, des choses, de, qui profitent de la vulnérabilité des gens et de la, crédibilité. Bon, alors, il y a une question, là, ça avance, hein, parce que...
Super bien,
oui. Oui, oui, c'est bien, oui, mais c'est,
ah, mais c'est vrai que c'est pas le diagnostic.
Alors, le retour à l'ancien les Votirox, c'est, on est dans un truc totalement bizarre. Alors, il y a eu. Tout est incompréhensible dans le comportement de l'agence des médicaments. Alors que sur le fond, ils ont totalement raison. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont résisté, non, l'ancienne formule, on ne va pas la remettre, tout ça, il n'y a pas de raison, puisque jusque-là, on n'a pas démontré qu'il y avait des effets secondaires liés aux excisions, tout ça. Réajuster un peu la gauche et ça ira bien. C'est la vérité, ils ont raison. Mais les gens n'entendent pas ça. Donc ils ont dit finalement, ben, finalement on revient à l'ancienne formule. Déjà on ne comprenait pas, les gens ne comprenaient pas qu'on ne revienne pas à l'ancienne formule. Et arrêtons tout le bazar pendant des mois, revenez à l'ancienne formule et on n'en parle plus, comme ça les gens sont contents, ça sera trop bien. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Et alors donc elle s'acharne, elle explique dans tous les sens qu'il y a pas. Il y a un rapport qui vient de sortir de l'agence du médicament démontrant que dans tous les cas analysés en pharmacovigilance, il n'y avait aucune toxicité des excipients, etc. Il y avait juste quelques problèmes de sous-dosage, le rapport est sorti il y a 3 jours. Et ils reviennent à l'ancienne formule. On va dire, on va remettre l'ancienne formule. Alors on ne comprend pas pourquoi ils ne reviennent pas à l'ancienne formule, et après on ne comprend pas pourquoi ils y reviennent. On ne peut pas comprendre tout ça. On ne peut pas comprendre. Et après, Sanofi fait venir la L-tyroxine Enning, qui était une T4 qui était commercialisée en Allemagne par Sanofi, qui a encore des excipients différents, donc qui va le faire venir pour résoudre le problème. Alors que le problème, c'est qu'on a changé les excipients de cette fameuse ancienne formule. On arrive avec un autre, encore d'autres excipients. Et on va considérer qu'avec ça, les gens vont se jeter dessus. Mais c'est encore des nouveaux excipients, donc nouveaux dosages, nouveaux trucs. Enfin, c'est un délire total, quoi. Délire total. Et cette histoire de. Donc le Tirox, c'est l'ancienne formule remise sur le marché. On a changé de nom. Et puis elles prennent en plus. On avait dit aux gens, tiens, ça sera dans les officines tel jour. Les gens y vont. Tout de suite, ils arrivent à la première heure. Et on leur dit, non, ça sera lundi. Revenez lundi. Lundi matin, à l'ouverture de la pharmacie, à 8h du mat, les gens arrivent. Ils font la queue. Et puis là, ben non, finalement, on l'a pas. Dans 15 jours, peut-être. Donc, tous ces problèmes de communication, sur les délais, sur tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça crée un bazar sur une chose que...
Carte boîte par pharmacie.
Oui, alors, c'est limité. Pourquoi c'est limité? Pourquoi c'est dans... On comprend pas. On comprend pas. Donc... tout ça, on aurait voulu aggraver, bah, personne ne comprend pourquoi on avait changé la formule. Les gens n'ont pas compris. Pourtant, ça a été bien expliqué. Pourquoi seulement en France? Eh bien, parce que l'agence du médicament a voulu trop bien faire. Elle a fait l'excès d'elle. Eh bien, voilà. Elle a eu tort. Elle a voulu garder l'ancienne formule. Elle est un peu moins stable. Vouloir avoir un produit un peu plus stable, c'est l'excès d'elle. Eh bien, l'excès d'elle, on paye cher. Pourquoi en France? Pourquoi on n'a pas tenu compte des besoins des patients qui fait passer par les réseaux et par le machin? Pourquoi on vient, tout ça, toutes les questions, toutes les questions que je viens de dire, en fait. Hein. Voilà. Et puis, alors, du coup, on pose la question des génériques. On change des excipients, ben, ça change peut-être des choses. Et la judiciarisation, du coup, parce qu'on attaque les laboratoires Merck, qui n'y sont pour rien. On leur a demandé de changer la formule pour avoir une formule plus stable. Ils l'ont changé. Ils ont une formule plus stable qui obéit aux spécifications. Ils n'avaient rien demandé, les laboratoires Merck allemand. Alors, ça parle de Merck, ça parle de... Voilà, on attaque l'agence du médicament parce qu'on fait des procès. Hein. Voilà. Donc on oppose en fait, c'est la vertu et l'hybris, hein, la vertu ministérielle qui est rationnelle, qui arrive tout ça, et l'hybris, la démesure, les réseaux sociaux, on ne sait plus, on a dit. C'est ce qu'on appelle Apollon et Dionysos, si vous voulez faire un peu de culture mythologique. De baclofène, il y a eu des vasouillages sur la dose pour le. Pour l'addiction à l'alcool, ça a été incompréhensible. Le dossier Taxel, vous avez compris l'histoire du dossier Taxel qui tuait les gens? Le taxotère, en fait, c'est générique du taxotère qu'on utilise dans un certain nombre de cancers. C'est un produit extrêmement efficace. L'agence du médicament a déclaré qu'il y avait des morts, tout ça, donc il fallait arrêter de donner du dossier Taxel, etc. Et puis en fait, on a retravaillé, et puis l'agence européenne dit, mais non, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de sur-risque. Alors on remet. Donc, les gens n'ont pas compris. Et c'était le générique de cet accès, pas le taxotère qui est produit. Enfin, moi, je n'ai pas compris comment ils ont travaillé pour arriver à ces aberrations. Et comme ils ont retiré du marché pendant un moment les dossiers taxel, parce que par semblait-il qu'il y avait des morts indues, et sans doute que ce n'était pas vrai, du coup, ils l'ont remis. Alors, entre-temps, les gens ont donné du pack taxel de Bristol-Myers Squibb, de BMS, qui est de la même famille, mais avec une dose très différente. Donc, les gens se sont réadaptés. Et maintenant, il faut revenir à l'ancienne recherche de cet accès à la Pradia, avec une posologie. Dans les services d'oncologie, des fous, quand on voit toutes les erreurs possibles qu'il y a de posologie, il faut faire drôlement attention. Ouais, ça, le Tamiflu, c'était quand même 1,5 milliard de dollars de stock de Tamiflu parce qu'il attendait une grippe grave. Et en fait, le Tamiflu, après, on a découvert qu'en fait, ce n'était pas très efficace. Il y a une étude Cochrane qui a été publiée qui a montré que ça ne marchait pas. Donc tout ça pour rien. Donc il y a quand même des autorités, elles font des erreurs. La maladie de Lyme chronique, il y a la maladie, la troisième phase de la maladie de Lyme, mais il y a aussi toute cette histoire autour de cette maladie de Lyme chronique, on ne sait plus où on habite, un peu comme dans un certain nombre d'autres pathologies, là on peut inventer ou pas, où on met n'importe quel symptôme fonctionnel sur le dos de la maladie de Lyme. Maintenant, il y a les Lyme Doctors, et les médecins, ils ont fait leur business sur « moi je suis lâche, vous êtes fatigué, tout ça, c'est la maladie de Lyme, et moi je vais vous traiter tout ça ». Donc on est arrivé à des trucs invraisemblables sur la maladie de Lyme. Vous savez, c'est hyper médiatisé. Le sang contaminé, n'en parlons pas, comme ça a été mal géré. Jacques a quand même été ancien directeur général de la santé, a fait 3 ans de prison quand même. Hein. Garetta aussi, il était le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Alors il y en a qui ont échappé. Hein. Et Jacqueline.
Coupable mais pas responsable.
Et Fabius sont. Voilà, coupable mais pas responsable. L'essai clinique de Rennes. Bah oui, alors c'est compliqué parce que du coup, on a un volontaire dans une équipe de phase 1 qui meurt d'un essai. C'est pas bien, c'est pas fait pour ça. Il allait bien pour gagner quelques sous. Et alors il y a eu une enquête, alors il y a eu une perquisition un jour, au milieu de la nuit, je ne sais pas quoi, de l'agence du médicament par la police pour saisir, notamment ils ont saisi un téléphone portable d'une évaluatrice de l'agence et il y avait des SMS qui étaient un peu cyniques. Donc il y avait 263 SMS où elle disait des choses qui étaient malvenues. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Donc les agences sont très responsables quand même de ces défauts de communication. Parce qu'il y avait 3 partenaires. Il y avait le fabricant, il y avait la boîte qui donnait l'essai clinique et l'agence du médicament qui avait donné l'essai. Elle a donné l'accord. Donc tout ça, on ne sait plus qui fait quoi et on ne comprend plus rien. Et puis alors on attaque du coup. Mediapart et les journalistes du Figaro dénoncent les méthodes de l'agence du médicament dans l'affaire de l'essai clinique de Rennes. On attaque les autorités en permanence, surtout. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait hein, c'est... Catastrophe naturelle, bon, Irma, ben, le gouvernement a mal fait, hein, comme toujours. La ministre de la Santé avait dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque sanitaire. Elle y est allée, elle a dit ben non, finalement, il y a un gros risque sanitaire. Et alors, les médias s'égalent. Donc, la communication est toujours épouvantable. Voilà, ce que je propose peut-être. Alors, après, j'ai plein de choses sur le patient expert. Parce qu'on voit l'apparition des patients experts à l'ANSM, à l'HAS, à l'Agence européenne du médicament, etc. Et qu'est-ce que c'est que le patient expert? Aujourd'hui, il y a une université qui a créé un master 1, un master 2 pour former des patients à devenir patient expert. Et ça devient un métier d'être patient expert. Non, mais il y a plein de choses qui se passent. Et ça fait depuis 10 ans à peu près. Et donc, les patients, ils arrivent et ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dans les décisions. Hein, et ça, les gens ne le savent pas. Hein, donc, ce qui est passionnant, c'est que c'est l'histoire des Votirox, tout ça. En fait, depuis un certain nombre d'années, le rôle du patient avait fait irruption dans beaucoup d'instances officielles. Les gens ne le savent pas. Et ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Les patients, souvent représentés par les associations de patients. Et on va pas prendre des tas de patients, pourquoi un tout autre, hein. Donc il y a des associations représentatives avec des gens qui... Donc les patients, et puis je voulais vous parler aussi des lobbies des conflits d'intérêts. Ça fera pour une autre fois. Parce que je pense que ça a déjà été très long. Oui. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'espère pas vous avoir trop fatigué.
Avant la discussion, question de Victor de Gilles. Est-ce que ton diaporama sera sur le site?